Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Ce week-end, le Grand Prix était sous le signe de l'air. Et oui, les diffuseurs continueront à être soufflés, mais pour cela, un vent de discorde a plongé sur le paddock. Malgré tout, ce que l'on retiendra ce week-end, c'est l'envol d'Alonso et de Ferrari pour cette première victoire de la saison. Pour m'accompagner, il nous dira s'il est heureux, mais on connaît déjà la réponse.
Fratelli d'Italia.
Et il flotte.
Donc vous aurez remarqué que notre guest de la semaine, c'est Antoine.
Non.
Quelle grande déduction, cher Shinji. Bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va bien et vous?
Ça va.
Tout bien.
C'est un week-end agréable, donc ça va.
Je veux dire, heureusement qu'on a eu une course pareille quand même après Valence. Hein. C'était quand même autre chose.
Ouais, mais il n'y a pas eu non plus énormément... J'ai regardé le début de la course cet après-midi, et je me suis fait la remarque, finalement, comme à Valence, la stratégie, se sont tous un peu neutralisés parce que le fait des pneus intermédiaires, qu'ils avaient plus besoin d'utiliser les pneus durs, après ils ont tous roulé en pneus tendres, donc ils se sont neutralisés comme à Valence avait été le cas, puisqu'ils ont tous filé les pneus médiums. Et puis, comme à Valence, le DRS a pas vraiment fait son office ce week-end.
Non,
donc, mais c'est là
la
où...
La zone était plutôt courte.
Oui, et puis c'est là où on voit que quand même on est sur un, c'est là où la différence se fait sur le Grand Prix quand même. C'est qu'il y a quand même de l'action et qu'en soi même Silverstone, et c'est quand même un circuit mythique et une course est forcément passionnante. En tout cas, voir les pilotes se dépatouiller avec ce circuit, ça a forcément quelque chose de spécial.
Au passage, hein, concernant Valence, je dois corriger une chose que j'ai dit lors de la dernière émission. J'ai dit que les murs à Valence étaient tout blancs. Et non.
Ils ont mis de la couleur.
Non, mais en fait, ils étaient tout blancs la première année et ils les ont changés de couleur la deuxième année puisque maintenant ils sont tout bleus.
Shame on you, Shinji.
Voilà. Bon, en même temps, ils connaissent qu'une couleur de peinture. Hein. Voilà.
Et c'est le bleu Red Bull. C'est en honneur des champions du monde.
Et sinon, toi, Antoine, cette course, comment tu l'as ressentie?
Tu la sens, cette course? Hein? Tu la sens? Dis-moi que tu la sens, cette course.
Elle sentait le mouillé, hein. Elle sentait la pluie. Et ouais. Par contre, elle sentait un peu moins le gaz que d'habitude. Et après, ça sentait un peu l'Espagne.
Et la Espagne.
Ah, l'Espagnol a dompté le taureau. Toréador.
Un joli anniversaire, faut le rappeler.
Ne dis
plus.
Pas Toréador, s'il te plaît. Ça évoque de mauvais souvenirs pour moi.
Mais non, mais c'était bien.
Oui, mais Carmen sans flamenco, c'est pas Carmen, je suis désolé.
Allez, on va passer à l'éphéméride.
Oh non.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
Nous étions donc le 10 juillet et je vais remonter tôt cette semaine parce que ça fait plusieurs semaines que je remonte pas très tôt. Alors chaque fois on me dit des trucs.
Cette semaine t'as décidé de bosser.
Ouais. Allez, tu sais quoi, j'ai même enlevé des dates parce que c'est aujourd'hui il y a plein de trucs. Je dis, ah non, quand même. On va commencer par le 10 juillet 1099, par la mort de Rodrigo Diaz de Bivar à Valence, qui est plus connu sous le nom de...
Alors déjà, il est mort parce qu'il avait regardé le Grand Prix.
Peut-être.
Une course de cheval, c'est ça.
Et il est mort...
Je sais pas comment il est mort. Il est peut-être mort dans son lit, mais c'est une personne, finalement, connue de la littérature.
Cervantes.
C'est pas Cervantes. C'est un personnage de la littérature.
Ah bah c'est... Ah, le mec du film, là.
Rodrigue. Rodrigue, as-tu du cœur?
Ah, oui.
C'est le Cid.
Non, j'ai du trèfle.
Oh, oh là là là.
Désolé.
Avec des vannes comme ça, tu vas nous faire pique. Hein. Ah. Et après, du coup, on va être sur le carreau.
On continue.
Je m'incline.
Avec, en 1637, l'enregistrement des lettres patentes portant création de l'Académie française. Donc, rappelons, l'Académie française, c'est des vieux, donc, qui se réunissent pour écrire un dictionnaire que Larousse ils le sortent tous les ans eux et qu'ils ont pas de soucis hein et qui te trouve des mots français pour remplacer les mots qui sont pas français mais que tout le monde utilise.
C'est pas que ça l'académie si.
On va passer au 10 juillet 1938, Howard Hughes hein le.
Oh, tu vas trop vite là Sidi.
Ah ouais non mais bon il achève un tour du monde en avion dans le temps record de 91 heures et 14 minutes. Alors pour donner une comparaison hein, en 2010 on faisait un tour du monde avec escale en 57h54. On a quand même gagné trentaine d'heures. En 1940, une date un peu plus beaucoup plus triste même, l'abolition de la Troisième République et la vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain.
Hein, c'est... Oui, c'est...
C'est plus triste.
Non, il y en a peut-être pour certains pour qui c'était une bonne journée.
C'est pas nouvelle. C'est vrai.
Sûrement même, mais bon.
Là, on a déjà fait notre émission facho, s'il te plaît. Il y a...
C'était pas avec moi déjà.
Sans doute.
Je crois bien. Hein.
Le 10 juillet 1964, en France, c'était la création de 7 départements. Les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne, le Val-d'Oise, les Yvelines et Paris, qui sont issus de la division en fait de 2 départements, l'ancien département de Seine, qui correspond en fait à Paris et les 3 départements qui l'entourent aujourd'hui, et le département de Seine-et-Oise, donc là où t'as le Val-d'Oise, l'Essonne et les Yvelines. En 1976, c'est une catastrophe industrielle qui porte un nom célèbre, tristement célèbre, c'est à Seveso. Et Seveso, oui, est une ville d'Italie. Hein. Seveso n'est pas un acronyme, hein, qui voudrait dire quelque chose, c'est en référence donc à cette ville d'Italie. Hein. L'explosion d'un réacteur chimique produisant des herbicides provoque un rejet de dioxine dans l'atmosphère. Un nuage toxique s'élève sur la ville et bah, c'est le drame, vous imaginez.
Et ça a servi en fait à définir des normes qu'on appelle les normes Seveso.
Sinon, autre fait quand même grave, parce qu'il y a eu un mort, c'est les services secrets français en 1940.
Oh.
Qui ont eu la bonne idée de plastiquer le Rainbow Warrior, port d'Auckland. Ils l'ont coulé, le Rainbow Warrior.
Ils ont plastiqué Jeff Gordon. C'est pour ça qu'il ressemble à Ken maintenant, Jeff Gordon. Il est plastiqué, en fait.
Voilà. Dans les naissances, le 10 juillet 1509, c'est la naissance de Jean Calvin, hein, qui est une personnalité importante du protestantisme en général, et notamment en France et en Europe. Le 10 juillet 1871, c'est aussi la naissance de Marcel Proust, hein, l'écrivain, donc avec ses fameux bouquins super épais qui sont inadaptables. Hein, c'est vrai, t'as jamais vu un film tiré d'un roman de Marcel Proust. Bon, bah, c'est qu'il y a une raison. Le 10 juillet 1943, c'était aussi la naissance de Arthur Ashe, le joueur de tennis américain, dont désormais, maintenant, c'est le cours central à Flushing Meadow,
ouais,
si je me trompe pas, qui porte son nom d'ailleurs, le cours Arthur Ashe, et qui a été un des modèles notamment pour Yannick Noah, parce que ça a été quasiment le premier grand tennisman noir, Arthur Ashe. Ils nous ont quittés un 10 juillet. Le 10 juillet 138, nous quittait Adrien, empereur romain.
Ah.
Célèbre maçon. Célèbre maçon. Voilà. Et plus proche de nous, là c'est le grand saut, hein, parce qu'on passe de 138 à 1989,
ah ouais,
avec le décès de Mel Blanc, qui était en fait la voix de Bugs Bunny.
What up, docteur?
Alors, les fêtes du jour, il n'y a pas de fête internationale le 10 juillet, mais c'est aux Bahamas la fête de l'indépendance, puisque bien, ils ont été indépendants un 10 juillet 1963.
Souvent, tu sais, il y a des pays qui sont indépendants, par exemple, le 14 juin, mais ils se disent, oh, alors, on va faire ça le 10 juillet, pourquoi? Comme ça, on avait envie, parce que...
C'est pas forcément le jour de l'indépendance, une fête nationale.
Oui.
Et c'est sûr que pour la France, ce serait difficile d'être devenu indépendant, quoi.
Et alors, en F1, eh bien, le 10 juillet, c'est la naissance alors, d'une personne qui n'a pas fait une grande carrière en F1, mais qui est quand même un nom de l'automobile, c'est Alessandro De Tomaso.
Ah oui.
Donc, qui a été pilote de F1, enfin, il a fait 2 grands prix,
ouais, qui a été constructeur de F1, j'ai dit, oh.
Mais bon, il n'en a pas 150, quoi, il en a 2. Il a été constructeur, il y a eu des De Tomaso, bon, ils ont fait que 10 grands prix, et De Tomaso, c'est aussi un constructeur automobile, alors de petite série, hein, les De Tomaso, hein. Toute petite. Et d'après toi, Dino, de quoi va parler l'éphémérie des fins cette semaine?
Les écuries qui sont qui se sont recyclées dans la construction de voitures, entre dans le genre.
Alors c'est ça. Alors j'ai essayé de faire plus large et entre guillemets peut-être plus facile, plus simple. J'ai eu envie de revenir, tout simplement, les équipes de F1 qui sont aussi donc des constructeurs automobiles. Et quand j'entends constructeurs automobiles, c'est vraiment des constructeurs de voitures de route. Mais non, il y a parfois des constructeurs qui faisaient déjà de la construction, mais de voitures de course. Non, là, vraiment, des constructeurs automobiles. Alors, globalement, il y a 2 familles. Il y a les grands constructeurs et, on va dire, les constructeurs de petite série. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, voilà, ces marques?
Ferrari. Oh,
c'est facile. Bah oui.
Alfa Romeo.
Qui n'est plus vraiment un petit constructeur, même par rapport à ses...
Oui.
Oui.
Bah, ils se mettent même à faire des 4x4 maintenant, donc c'est plus des constructeurs.
Alfa Romeo, tout à fait.
Suzuki. Avec Super Aguri.
Alors, il s'appelle Aguri Suzuki.
C'est mais... justement ça le truc, c'est qu'il avait pas le droit de s'appeler Suzuki parce que Suzuki c'est un constructeur et que il avait donc pas le droit de prendre le nom d'un constructeur, même si c'est son nom à lui.
C'est vrai, voilà, c'est vrai, c'est son nom, hein. C'est un homonyme en fait, tout simplement. Allez, il y a qui d'autre? Il y en a des, il y a plein de faciles, hein. Là, ouais, aujourd'hui,
Ferrari,
c'est pas dur.
Mercedes, il y a McLaren maintenant.
McLaren, oui, faut pas l'oublier.
Il y a Williams d'une certaine manière parce que je crois qu'ils ont fait les.
Alors, c'est pour ça que j'ai bien dit, c'est ceux qui sont constructeurs, parce qu'en effet, Williams n'a pas vraiment construit d'automobile, ils ont apposé leur nom et ils ont préparé une voiture en fait, plutôt, ouais. de préparation de voiture.
Mercedes, BMW, Renault, Toyota.
Ouais, facile.
Honda.
Oui.
Ligier.
Oui.
Alors, tu sais quoi, quand j'ai fait la liste, Ligier, je l'ai mis entre parenthèses.
C'est un peu logique.
Parce que, bon... C'est vrai que c'est des voitures.
C'est des voitures, je suis désolé. Bon, tu peux faire tes courses avec dans ton supermarché, et c'est des voitures.
Des caisses à savon, c'est des voitures, mais tu roulerais pas avec, quoi.
Donc Ligier, constructeur de voitures sans permis. Qui d'autre, en grand constructeur,
bah Ford. Ah non, ils ont pas eu d'équipe à...
Alors, si on élargit au moteur, il y a eu des moteurs Ford, et c'est vrai que c'est un cas particulier, parce que alors, il y a Jaguar.
Voilà, il y a Jaguar.
On peut mettre la marque Jaguar.
Mais c'est ça qui était là, c'est-à-dire que, en fait, il y a Jaguar, mais c'était pas vraiment le constructeur Jaguar qui s'impliquait, mais c'était Ford qui s'impliquait, sauf que c'était pas le nom de Ford. Donc, théoriquement, Jaguar et Ford ne devraient pas compter.
Voilà.
C'était Schnickel.
Puisque Ford s'implique, mais pas sous son nom, donc il n'y a pas eu d'écurie qui a eu son nom, mais que Jaguar a eu une écurie à son nom, mais c'était pas directement impliqué.
Voilà. De la même chose avec Fiat. Fiat a eu des moteurs à son nom. Mais en même temps, on peut dire qu'ils ont une équipe.
Oui.
Voilà. Qui d'autre, vous avez des idées?
Dans les grands constructeurs, on a fait le tour.
Oui, parce que Renault, tu veux le dire. Il y a Lancia.
Ah oui, Lancia. Qui a fait 4 grands prix, je crois.
Voilà.
Après, je crois qu'ils se sont associés avec Ferrari ou Alfa. Ferrari,
peut-être. Ouais. J'ai noté Matra, parce que j'ai vu qu'il y avait eu une production automobile de Matra.
Bah, c'est la Gardère, je crois, Matra.
Oui, c'est la Gardère, oui, tout à fait.
Ils avaient fait des prototypes assez barrés d'ailleurs, hein, je crois.
Dans le même genre, il y a eu Simca Gordini.
Oui.
Enfin, l'ensemble Simca Gordini, hein, parce que Gordini, lui, n'a toujours été là pareil qu'une sorte de préparateur.
Ah, mais il y a même Simca... eu.
Bah oui, non, mais c'est comme William, je veux dire, c'est voilà, il y a eu les R8 Gordini et tout ça.
Oui, non, mais il y a aussi eu Talbot.
Et oui, Talbot, ouais, tout à fait. Qui certes sont pour Simca et Talbot sont des marques qui n'existent plus, mais qui ont été des grands constructeurs à leur époque, hein, en termes de vente. Alors après en petite série, faut rappeler que Aston Martin a participé à la F1,
ouais.
Ah, oui.
Bugatti a fait de la F1, que Lamborghini y a touché,
Maserati,
Lotus peut-être. Non, Lotus c'est pas une marque de bagnole, Lotus.
Ah.
Je l'avais même pas dit.
Certes.
Peut-être pas maintenant, mais à l'époque...
Mais avant toi, à quoi tu penses?
Je pense pas beaucoup, quoi. C'est peut-être ça aussi, là.
Il y a eu Porsche.
Oui.
Spyker.
Oui,
ça va durer longtemps.
Par contre, tu nous pardonneras.
Oui, non, mais... Venturi, hein, aussi, a touché à la F1. Et si on touche vraiment au moteur, faut noter, il y a eu les constructeurs américains via Indianapolis. Alors, il y a eu Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, hein, Mercury aussi, marque pas très connue.
Non, mais j'allais dire Freddie Mercury, tu m'as cassé mon truc. Sérieusement, quoi.
Mais aussi, on peut compter Subaru, hein, qui a fait du moteur.
Oui.
Et Yamaha. Bien évidemment, alors Yamaha, là encore c'est pareil, Yamaha je l'ai mis entre parenthèses, parce que eux c'est des motos qu'ils font. Il n'y a pas de voiture,
ah oui,
Yamaha. Mais voilà, ils faisaient pas de bagnole, mais ils ont fait des moteurs de F1. Et puis bien évidemment, cette gloire nationale, hein, c'est les plus beaux moteurs que la France ait jamais fait. Les Peugeot. Et oui, faut pas l'oublier.
Oui.
Donc voilà, c'était un petit, parce que c'était pas vraiment super dur, mais finalement il y a pas mal de constructeurs, hein, même si on note des grands absents quand même, hein, notamment tout ce qui tourne autour de Volkswagen.
Oui.
Parce qu'il y a vraiment que dalle, hein.
Ils ont tenté de les attirer au niveau du moteur.
Mais... Enfin ouais, il y a Porsche, mais à l'époque c'était pas Volkswagen.
Ouais, voilà.
C'est récent Porsche et Volkswagen. Sinon, oui, on trouve du Fiat, on trouve des Anglais, enfin voilà, des Allemands, du Japonais. Donc voilà, c'était tout pour l'éphéméride cette semaine.
Bah, c'était bien sympathique, Shinji.
On va passer à l'actu.
Oh non.
T'as pas envie?
Ouf.
T'as pas envie de faire tes podiums à 14 marches?
Non mais honnêtement, qui se rappelle du monde avant samedi? puisque tout a été soufflé d'un coup.
Oh là 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 là. Il y a du niveau, attention. Faudrait que j'écoute le dernier SAF parce que j'ai pas encore écouté, je crois qu'il y a dû avoir du level aussi. Les vacances ne te réussissent pas, les coups de soleil, il faut mettre un chapeau. Ça fait mal aux neurones. Tu en perds.
On est en Normandie, il fait jamais beau, c'est voilà, on n'y peut rien.
Et c'est pour ça, il y a eu un rayon de soleil, je t'ai jeté dessus, ça fait clac.
Ah mais nous, dès qu'il y a un rayon de soleil, on fond. Bon alors, le podium de l'actu.
Exact, il y a combien de places?
Alors, généralement, il y en a 5. Et là, il y en aura que 4. Il n'y en aura que 4 parce que y a un truc, c'est pas vraiment une actu. Enfin, ce sera un beau sujet de débat, mais c'est pas vraiment une actu.
Diffuseur soufflé.
Assez étonnamment, il n'y a pas de diffuseur soufflé dans le podium.
Ah,
c'est-à-dire vraiment que les gens n'en avaient rien à foutre.
Oui.
Donc, le quatrième article le plus lu, c'était une actu concernant Mercedes Grand Prix, qui s'intitulait Schumacher dans l'attente, Rosberg s'impatiente. C'est beau, c'est bien écrit, ça rime, c'est magnifique.
C'est toi qui l'as écrit?
Je crois que c'est Fabien qui l'a écrit. Du coup, la rime ne m'étonne pas. Donc voilà, c'est parce que c'est par rapport aux performances de la voiture, à leur avenir, puisqu'on sait qu'il y a des rumeurs en ce moment sur Schumacher qui pourrait se retirer à la fin de la saison.
Et c'est eux qui ont dit qu'on n'est pas nuls, c'est les autres qui sont bons.
Mais de toute façon, tous les mois de juillet, il y a des rumeurs.
Bah oui. Ah bah là, mais en fait, ça a été lâché apparemment par Rose Brown, qui a dit que en fait, Schumacher avait un contrat de 2 ans avec une option. Ce qui a commencé à un peu mettre en ébullition toutes les salles de presse outre-Rhin. Et Rose Brown a dit, non, il a un contrat de 3 ans. Non, Bert Hogg a dû ressortir pour dire, non, il a un contrat de 3 ans. Donc voilà, on sait pas vraiment ce qu'il en sera de Schumacher. On sait juste qu'ils disent, oui, s'il veut continuer, il pourra continuer. Il y a quand même un discours disant, s'il veut partir en même temps, il peut partir. Hein. C'est, voilà. Quand on dit à un mec, s'il veut continuer, il peut, c'est grosso modo qu'on l'autorise aussi à partir. Et de l'autre côté, on a Nico Rosberg qui depuis la saison fait l'objet de rumeurs chez Ferrari, chez McLaren, chez Red Bull. Il n'y a pas eu grand-chose le concernant, mais voilà, on commence à se dire que finalement Mercedes n'est peut-être pas une écurie où il a sa place, en tout cas où son talent peut le mieux s'exprimer en ce moment. Donc voilà. Mais il faut noter, je crois, que Mercedes a dit qu'ils allaient, ils voulaient garder les deux.
Mais il peut partir.
Mais ils peuvent partir, mais voilà. Mais Schumacher peut partir s'il veut.
S'il veut.
Bon. Il a déjà réussi à partir dans l'aileron de Kobayashi, c'est déjà pas mal.
On y reviendra.
Non. Mais il a dit qu'il avait encore espoir pour 2012, hein. Donc, s'ils lui disent il peut rester, il va vouloir rester, hein.
Ben oui.
Oh, par contre, quand le contrat sera terminé, faut pas rêver. Non, sinon, quelle est la troisième actu?
La troisième actu, c'est une actu qui a même surpris son auteur, qu'elle soit aussi bien classée, alors que, contrairement à certains petits malins, il n'y avait strictement rien de, comment dire, de dans le titre, il n'y avait rien pour...
Et pas de rime.
Et pas de rime, et puis il n'y avait pas forcément, vous savez, ces petits mots-clés. De toute façon, quand vous allez voir le premier, on s'expliquera, vous comprendrez tout. Quand vous verrez le
premier. Il y avait le mot F1.
Voilà, il y avait le mot F1.
Ouais.
Il y avait surtout le mot Jean-Éric Vergne, hein, puisque c'est un article écrit par toi, Antoine, je crois.
Oui.
Qui s'interrogeait sur la possibilité de voir finalement Jean-Éric Vergne débarquer en Formule 1 juste après, hein, vous le savez, que Ricciardo a eu sa place chez HRT avec le soutien de Red Bull. Pourquoi pas imaginer que Jean-Éric Vergne fasse son arrivée soit cette saison, soit on peut douter, ou l'année prochaine.
Ah, puis vu les beaux débuts de Ricciardo...
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Tu devrais me dire merci.
Ta gueule. À la base, c'était pas contre toi, mais ça va devenir un drive-thru contre toi, Shady.
C'était même pas hyper négatif contre Ricardo,
oui,
hein.
C'est un petit peu négatif quand même. c'est un drive-thru, il me semble, que c'est contre Jean-Louis Moncey, qui a dit à la fin de la course, qu'il fallait noter que, comme Ricciardo finissait à 64 secondes de son coéquipier, Vito Antonio Liuzzi, sur une HRT, rappelons-le, que c'était un signe encourageant pour Jean-Éric Vergne, voilà, et que, grosso modo, il nous avait été un peu surcoté, le Ricciardo. J'ai juste envie de dire à monsieur Jean-Louis Moncey, c'est pas parce que Jean-Éric Vergne est un pilote français qu'il faut nécessairement casser tous les jeunes pilotes qui se pointent avant les pilotes français et même pas leur laisser le temps de faire leurs preuves. Ricciardo, il arrive dans une écurie qui est très difficile, qui où il a dû apprendre plein de systèmes, où il a pas forcément eu le temps de s'adapter dans les essais, etc., de prendre véritablement connaissance de la voiture et de prendre confiance. Il arrive sur un circuit qui est pas un circuit de branleur,
c'est pas plus simple.
Et à la fin, parce qu'il est, c'est vrai qu'il est loin de son coéquipier. On a une réflexion qui est faite par quelqu'un qui est quand même un professionnel. Grosso modo, c'est limite, on devrait le juger juste sur ça et virer Ricciardo et mettre Jean-Éric Vergne à la place.
Oh, il ferait pas mieux.
C'est même d'ailleurs, on a vu le cas dans de mauvaises conditions, un pilote qui est un pilote très talentueux,
Grosjean.
Hein, Grosjean qui est très talentueux, qui le montre aujourd'hui en GP2, qui l'a montré par le passé, qui a été mis en Formule 1 n'importe comment et qui s'est cassé les dents. Et ben voilà, comme ça, en une course, les journalistes ou les médias le détruisent en disant qu'il est fini. Faut quand même peut-être aussi leur laisser du temps. Et c'est vrai que ça m'a vraiment surpris de la part de Jean-Louis Moncey qu'il nous sorte cette phrase-là, parce que c'est pas vraiment non plus dans ses habitudes, mais sans doute que le fait que ça concerne potentiellement un pilote français, Jean-Éric Vergne, et qu'on soit tous un peu stressés parce qu'on a quatre très bons pilotes français, mais qu'on a quasiment aucune certitude de les voir un jour en Formule 1, c'est peut-être ça aussi qui l'a fait sortir de ses gonds, enfin sortir de ses réserves habituelles. Donc attention Jean-Louis, que je t'y reprenne pas.
Après, je pense que Vergne aurait quand même fait un poil mieux. Mais Ricardo n'a pas vraiment démérité. Bah, le truc, c'est que Vergne, ça fait quand même depuis l'époque de la RB5 que c'est lui qui commence à faire les réglages pour Vettel, Weber, pour commencer dès le vendredi. Quoi. C'est lui qui fait tout le simulateur et tout. Quand tu vois que lui... Bon, là, il est quand même premier du championnat Formula 3-5 dans les World Series by Renault, alors qu'il y a quand même certaines courses où il a pas pu faire les essais parce qu'il est obligé d'aller bosser dans le simulateur. À Monaco, par exemple, il a fait les essais le jeudi, il est rentré à Milton Keynes le vendredi pour faire les essais simulateurs, et il est revenu pour les courses.
Mais même là, en Hongrie, je crois, quand il a gagné les deux courses en Hongrie, il le fait, je crois, en ayant dû retourner dans le simulateur ou en tout dans le genre. C'est ce que j'ai pu comprendre dans son interview, sur la grille par Denis Brognard. Maintenant, c'est pareil, c'est toujours la même problématique. C'est pas forcément parce que quelqu'un est bon dans une série qu'il va forcément être bon en Formule 1. On voit le profil de Kobayashi.
C'est sûr, il va se casser la gueule.
Kobayashi, honnêtement, quand il est arrivé en Formule 1, on se disait, ouais, c'est un pilote soutenu par Toyota, il a rien prouvé, il n'a été que champion GP2 Asia. Du coup, on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi brillant et ça a été une vraie surprise. Moi, je suis pas forcément sûr que Jean-Éric Vergne aurait fait mieux.
C'est bon pour ton drive fou?
Oh oui, moi c'est. Donc tu veux que je passe à la deuxième actu?
Oui, à moins
que lui rappeler. À moins qu'on aille prendre un café entre temps. Enfin...
Non mais pareil, sur les, on va dire trois. Charles Pic me semble encore un peu jeune peut-être pour venir en Formule 1, mais.
Mais il est soutenu par Lagardère.
Oui.
Ouais.
Et si Lagardère ne vient pas à toi, c'est toi qui râles.
Ouais. Hein.
Et
la galère, mais bon.
Mais bon, on voit quand même ceux qui ont quand même le plus de chance, c'est Vergne, Grosjean et Bianchi. Vous voyez-vous lequel pour venir en Formule 1 le plus vite possible et où?
Grosjean avec Petrov si Kubica ne revient pas.
Ouais, parce que Edfeld, globalement, il est trop décevant. Donc...
Oui, mais il veut rester en 2000.
Oui, il espère. Mais bon.
Ou alors Grosjean chez Lotus.
À la place de Trulli.
Bianchi, je le vois mal arriver directement chez Ferrari. Pourquoi pas chez Sauber, hein, forcément.
Ah, Sauber, ça va être tendu avec Kobayashi et Pérez, qui rapporte quand même des millions en plus de bonnes performances.
Mais à moins que Kobayashi parte.
C'est ça le truc. C'est
Kobayashi veut signer 2013-2014.
Et honnêtement, il a pas fait la saison pour pouvoir prétendre à se situer à l'un des deux pilotes titulaires pour le moment.
Et puis Vergne, Toro Rosso. Donc finalement, des trois, plutôt Vergne ou Grosjean, clairement.
Donc peut-être d'ailleurs, deux l'année prochaine.
C'est hier dans Dimanche F1, c'est Franck Montagny qui a dit que c'était un peu le moment clé pour Romain Grosjean, c'est-à-dire que s'il trouve une place pour l'an prochain, c'est maintenant, parce que actuellement il est quasiment le meilleur en GP2. J'ai pas vu les courses, mais il est en tête
clairement,
de classe.
Ouais.
Voilà, il est clairement. Est voilà, je veux dire normalement, théoriquement, que ce qu'il soit français ou d'une autre nationalité, par rapport à ce qu'on a en GP2 actuellement, le prochain qui doit arriver en F1, c'est lui. Donc, s'il doit trouver quelque chose, c'est dès maintenant qu'on voit les victoires qu'il fait et les courses qu'il fait. Donc oui, pour moi, ouais, plutôt Grosjean ou Vergne. Ou Evergne, peut-être.
Ah ouais, les deux, ça serait top.
Ça serait top.
C'est pareil pour Vergne, ça va être difficile, parce qu'en ce moment, Albert Suari est en train de se rappeler au bon souvenir d'Helmut Marko. Buemi.
Et Weber va peut-être se replonger, donc voilà, ça va fermer c'est... la.
Est-ce qu'il virerait pas Buemi ou Helmut Marko pour donner la place à Ricardo et continuer le partenariat avec HRT?
Ouais, mais déjà, quand tu vois ce qu'ils font, le fait, ne serait-ce même déjà que le fait d'envoyer, Ricciardo chez HRT, plutôt que de le faire remplacer, parce que ça, ils l'ont déjà fait par le passé, plutôt que de le mettre dans l'équipe Toro Rosso. C'est déjà dire qu'ils savent déjà pas quel pilote retirer de Toro Rosso.
Bah non, ce Buemi, il a été très fort en début de saison, là. Hier soir, il vient de se réveiller au Canada. Donc, c'est quand même assez tendu.
Le problème de Red Bull, c'est qu'ils ont trop de pilotes.
Et ils ont 6 pilotes pour 4 places.
5 maintenant.
Voilà, il y a un moment, c'est bien d'en suivre plusieurs, mais voilà, le nombre de places, il est limité, quoi.
Oh, heureusement qu'ils n'ont pas gardé Vikens, qui est maintenant le troisième pilote Virgin Racing.
Et Hartley aussi, qui est passé à la trappe.
Hein. Oui, mais Hartley, c'était déjà en WSR, il n'était pas à la porte de la F.
Ouais. Ah,
Hartley a quand même été assez décevant, quoi.
Oui, bah c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été viré.
C'est comme Scott Speed.
Oui, on remonte à la préhistoire.
Ah, c'était en 2007.
Ah bah c'est la préhistoire.
Écoute, ils n'ont pas gardé Christian Klien, bon, c'est un peu triste.
Et King Kong.
Oh, 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 non, ça là, ce qui me fait chier, c'est que, je vais la garder quand même.
Salut.
Allez, on passe à l'actu suivante.
Oui, alors, c'est une actu, donc la deuxième actu qui a le mieux marché sur le site fanf1.com. C'est une actu qui concerne pour le mois de septembre, qui devrait concerner et faire plaisir à plein de fans, puisqu'il s'agit de F1 2011, le jeu de Codemaster, qui, dit l'article, ne sera pas une simple suite.
Mais bien sûr.
Et je confirme.
Non.
Alors j'avoue que j'ai pas forcément bien suivi, puisque vu que j'ai pas avancé dans F1 2010, je m'intéresse même pas encore à F1 2011. Donc je sais pas exactement quelles sont les nouveautés.
Les nouveautés, en gros, t'as tout le comportement des monoplaces qui est revu. Donc t'as l'intégration des nouveautés de la saison, bien sûr.
C'est souhaitable. Ouais.
Oui. T'as une gestion dynamique de la météo, donc.
Mais c'était pas déjà censé le cas.
Si, si, mais en fait, même dans le ciel, en gros, tu vas voir les nuages, tout ça, tu vas pouvoir gérer, tu vas pouvoir anticiper en regardant le ciel.
Voilà, tu pourras voir les nuages gris, dire, ah tiens, il va peut-être pleuvoir.
Mais c'est pas déjà le cas, théoriquement.
Non.
Non. Aujourd'hui, il fait beau, et puis d'un coup, il se met à pleuvoir.
Mais il y a un an, on nous tenait le même discours, hein, la météo dynamique et compagnie.
Oui,
mais là, ils ont montré
Météo dynamique, ça veut juste dire que la météo change.
Non, mais on est donc bien d'accord qu'on s'est fait couillonner la première fois et que là, on croit tous que ça va arriver la deuxième fois.
On verra. Après, il y aura les circuits au soleil couchant. Il y aura intégration de cinématiques pour le mode carrière, donc le podium, a priori, et tout ça. Etc.
Et aussi, apparemment, les fameuses questions, ils ont promis qu'on verra plus une plus grande incidence, en fait, les fameuses réponses.
Mais bah là, en même temps, tu voulais rester dans ton écurie, tu mets tout à droite, tu voulais aller dans ton écurie, tu mettais tout à gauche.
c'était trois réponses très tranchées à chaque fois. Hein.
Est-ce que les performances du week-end vous conviennent?
Non, c'est de la merde. Oh, ils ont fait beaucoup d'efforts. J'adore cette voiture. C'est un peu ça.
Voilà, c'est bien résumé. Non mais grosso modo, c'est juste une mise à jour avec une petite correction, mais ça reste globalement pareil, quoi.
Dis pas ça, les gens qui achètent PES et FIFA tous les ans vont se rendre compte qu'ils sont arnaqués tous les ans.
Ah, et dans F1 2011, il y aura le mode multijoueur qui sera beaucoup mieux intégré aussi. Il y aura vraiment les courses à 24 voitures, des courses jusqu'à 16 personnes réelles.
Oui, mais ça c'est pareil, c'est-à-dire que l'an dernier, nous avait dit « Ouais, on va faire plein de systèmes pour éviter les mecs qui se barrent pendant la course, pour éviter, etc. » Moi, je suis toujours dubitatif sur les jeux parce qu'ils sont toujours en train de nous annoncer des trucs, des révolutions, etc. C'est juste des ajustements, voilà, c'est ce qu'ils auraient dû faire
sur le premier
jeu. C'est les promesses non tenues du premier jeu qui vont enfin peut-être se décider à tenir.
On verra bien si Jay a la safety car. Mais votre fidèle serviteur se chargera de tester le jeu.
Ah.
Ah. Et alors sinon, quelle était la première actu?
Alors la première actu, j'ai envie de dire c'est de l'arnaque. Mais j'ai envie de dire je suis un peu fautif.
Oui.
Puisque, rappelez-vous, la dernière fois, j'avais donné un conseil à tous ceux qui voulaient créer des sites de Formule 1 en vous disant, pour bien attirer du monde, faut réussir à faire des news qui concernent plusieurs pilotes. Et là, honnêtement, c'est même sans m'en rendre compte. J'ai fait le titre tel quel, et c'est seulement quand j'ai publié l'article, je me suis dit, j'ai quand même réussi à mettre trois noms de mecs qui marchent bien sur Google. Et ben c'est le fameux article qui s'appelait « Pour Hamilton, Vettel n'est pas le nouveau Schumacher ».
Très cher.
Puisque c'est un peu parti de d'une interview pour le site officiel de la Formule 1 de notre ami Bernie Ecclestone avec Sébastien Vettel, où il a évoqué la possibilité qu'on entre dans une ère Red Bull, tout comme il y avait eu une ère Ferrari, ou pourquoi pas une ère McLaren, une ère Williams, hein, parce qu'on dit souvent l'ère Ferrari, il y a quand même eu d'autres ères dans l'histoire de la Formule 1.
Oui.
Donc du coup, il y a eu des réactions. Qui on est allé demander en premier? Bien évidemment, Lewis Hamilton.
Forcément.
Et qui a répondu, bien évidemment, mais non, vous allez voir, on sait jamais ce qui se passe l'année prochaine, peut-être que Lotus va revenir, Lotus Grand Prix, sans son moteur Renault, bien évidemment, peut-être que Williams va revenir avec son moteur Renault, par conséquent, voilà, donc, en disant qu'il y avait des choses qui allaient changer l'année prochaine, enfin,
De toute façon, pour lui, ça peut pas être une ère Vettel, puisque ce sera une ère Hamilton.
Ce qui est étonnant, c'est que dans cette déclaration, il dit, oui, mais de toute façon, le règlement change tous les ans. L'année prochaine, je suis pas sûr qu'il y ait de gros changements de réglementation pour 2012. Ouais.
Le diffuseur soufflé, normalement le carburant.
En dehors du diffuseur soufflé, après le carburant, ça reste des entre guillemets des petites retouches, comme il y a souvent.
Ouais.
Mais c'est pas des gros changements de réglementation comme on a depuis deux ans.
2013. Non, vu ce qui va, 2013 pour le coup non.
Parce que je crois que là ils ont aussi demandé à ce que la réglementation aérodynamique passe à 2014 comme le moteur.
Bah oui, c'est voilà.
Donc voilà, grosso modo sur les deux prochaines saisons, il n'y a pas de grand changement de réglementation. Donc est-ce qu'on pourrait pas se diriger vers une ère Red Bull? Moi j'ai tendance à dire peut-être. Surtout que ça fait quand même deux saisons de suite que McLaren et Ferrari leur courent derrière et qu'ils n'ont pas réussi à les rattraper malgré justement des changements de réglementation. Donc voilà, moi je pense que peut-être qu'on est rentré dans une Red Bull.
J'ai même envie de dire trois saisons. 2009, 2010, 2011.
En fait, ils leur courent derrière, ouais. qui eux-mêmes couraient derrière Brown.
Oui, c'est vrai. Brown a eu la merveilleuse idée de vendre la Mercedes.
Oui. C'est l'affaire du siècle.
Ouais.
Et donc du coup, comme on parle de Mercedes, hein, bien évidemment, à qui on a demandé son opinion, Michael Schumacher, qui lui a dit que c'était peut-être possible qu'il y ait une ère Vettel et une ère Red Bull, et qui n'a pas écarté la possibilité que Vettel batte certains de ses records. Maintenant, c'est ce qu'on disait aussi de Lewis Hamilton il y a deux ans avant que Red Bull arrive. Donc c'est vrai que d'un certain côté, Hamilton n'a pas tort. Il suffirait qu'il y ait une équipe qui se mette à bien travailler et qui soit la révélation ou la surprise. Et tout d'un coup, l'ère Vettel, elle s'arrête d'un coup, tout comme s'est arrêté, entre guillemets, l'ère Hamilton. Encore faut-il que le règlement y aide un petit peu.
Ou l'ère Schumacher en 2005.
Oui.
Ouais.
2005, il a quand même fait qu'une victoire quand il n'y avait que 6 pilotes au départ.
Mais c'est ça le truc, c'est que quand on prend les différents doubles champions, ceux qui ont fait deux championnats de suite, donc c'est vrai qu'il faut quand même généralement qu'il y ait un changement de réglementation ou un changement de carrière pour le pilote pour que l'ère entre guillemets s'arrête. Donc voilà, vous imaginez Vettel battre Schumacher?
Non.
Battre sur la longueur, oui, peut-être, mais sur la longueur, hein, pas
à la moyenne.
Pas aussi rapidement que Schumacher. Quoi.
Voilà. Il est encore très jeune, je crois que j'ai déjà dit, mais voilà, vu son âge, il a encore 7-8 ans facile devant lui.
Même quasi en 10 ans, quand tu vois que Weber était dans la course jusqu'au titre.
Mais c'est ce que je disais, hein, ce que je disais. Vettel en 2020, il peut être encore en F1.
J'ai même envie de dire, peut-être même 15, voire 20 ans, parce qu'il faut quand même se rappeler que Schumacher a 42 ans.
Oui.
Qu'il est encore pas au top, mais qu'il est quand même dans les 8 meilleurs pilotes de la Formule 1. Donc,
oui, c'est pas un vieux crouton non plus, faut pas l'oublier.
Enfin, il est dans les 8 meilleurs parce qu'il a une voiture pourrie, quoi.
Oui.
Sinon,
oui.
Il serait plus haut.
S'il avait une voiture, il serait devant. Mais, donc c'est pour ça, c'est dire que Vettel, il a 24 ans, je crois.
24 ans, ouais.
Il reste, on peut en reprendre pour 18 ans.
Ouais, ouais.
Alors là, on vient de tuer à peu près un auditeur sur deux. Qui vient d'apprendre qu'on pouvait peut-être reprendre 18 ans de Vettel.
Oui.
T'imagines 18 titres, Red Bull.
Oh, peut-être même des titres sur des équipes qu'on pense même pas qu'un jour ce sera des équipes. Parce que sur 18 ans,
Burn. Burn pour concurrencer Red Bull. L'équipe KFC.
Ah non mais
carburant.
D'ailleurs, vous allez lire. Enfin, vous avez lu. Là, nous on enregistre lundi, donc vous allez lire. Mais normalement, vous avez lu la chronique d'Axel, la chronique hors piste, qui parle justement de ces écuries au nom un peu bizarre.
Intéressant.
Donc voilà, c'est tout pour les news.
Bien, c'était de bien Biel News.
De bien Biel News.
Ouais, de bien Biel News.
Et on parle de biais, parlons de moteur. Qui qui dit moteur dit échappement. Qui dit échappement dit diffuseur soufflé.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Donc un beau dress-rug pour la FIA, Bernie Ecclestone et tout ce qui va autour. Étant donné que la plupart des équipes étaient donc contre un changement de réglementation en pleine saison, ce qui est un peu compréhensible, comme dit Newey, ça rappelle bizarrement les suspensions intelligentes dans les années 90, qui avaient été supprimées quand une certaine équipe n'avait pu les utiliser correctement.
Les mass dumpers.
Ou les mass dumpers.
Oui, ou les mass dumpers en 2006. Donc, on voit que Red Bull commence à filer vers le titre, tout le monde suppose que c'est par la force de ses diffuseurs soufflés. On essaye de leur couper les ailes, et c'est surtout la gestion calamiteuse de ce week-end qui mérite un dress-rug, étant donné qu'on a eu droit à environ 5 changements de réglementation en moins de 24 heures.
Au point que même les commentateurs de TF1 ont perdu leur latin. Ils nous ont quand même sorti, je crois que Jean-Louis Moncel nous a sorti, que pendant la course, on était revenu à la réglementation de Barcelone.
Oui.
Le mec est quand même sur place. C'est dire à quel point tout le monde était un petit peu assommé par cette histoire. C'est quand même Jean-Luc Moncey, qui est pourtant habitué à bien suivre quand même les dossiers, nous a parlé de la réglementation de Barcelone ou de celle de Valence et nous a dit qu'elle était rentrée en application, enfin elle était de nouveau en application pour la course, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y avait un statu quo pour la course. Elle ne reviendra que pour le Grand Prix d'Allemagne.
Donc on peut noter et dire voilà, c'est quoi la réglementation? C'est donc on les laisse utiliser le diffuseur soufflé comme ils veulent, et par contre, on garde cette règle, on va
dire, de cartographie moteur doit être la même que celle de qualification.
Voilà, voilà.
Cela, pendant la course, il y avait quand même, donc les moteurs Renault, enfin tous les moteurs étaient limités à 10% de puissance d'échappement au freinage, mais le moteur Mercedes avait le droit d'injecter de l'essence dans 4 des 8 cylindres au freinage.
Ouais.
Donc si tu injectes de l'essence, généralement, il y a de l'échappement qui sort, quoi. Mais
de la même manière, tout ça c'est pour des questions de
politique.
C'est soi-disant pour les équipes pour des questions de
fiabilité.
Donc du coup, on a Mercedes qui a demandé à pouvoir injecter de l'essence, ce dont on leur a accordé. On a Red Bull on a Renault qui a demandé à pouvoir laisser passer plus d'air parce que en fait leur soufflage se fait par l'air froid
et que ça aide à refroidir le moteur.
Et d'ailleurs,
c'est monté à 50%.
D'ailleurs, ils se murmurent que peut-être justement que c'était dans ce domaine-là que ça handicapait le plus Red Bull, c'est que ça refroidissait le moteur. C'est pas trop sur le diffuseur soufflé que ça embêtait Red Bull, que sur le refroidissement du moteur que ça les embêtait. Et donc, on leur a autorisé 50% de gaz. Bon, Ferrari, on sait pas ce qu'ils ont obtenu. Mais ce qui est clair, c'est que toutes les écuries ont été demandées des petits privilèges à la FIA, que la FIA les a acceptés pour des raisons sans doute politiques dans l'objectif de diviser pour mieux régner. C'est d'ailleurs la preuve, c'est qu'on a quand même la FIA dans tout le bordel qu'ils nous ont laissé samedi matin, qui dit samedi après-midi, alors on est bien d'accord, on veut bien revenir en arrière, mais il faut que les équipes soient unanimes.
Oui.
C'est quand même très rare que la FIA dise c'est vous qui choisissez le règlement.
Non, parce qu'il est drôle, c'est que la FIA peut décider elle seule d'interdire un truc, mais pour revenir en arrière, il faut l'accord de toutes les équipes.
En sachant qu'au passage,
c'est logique.
En sachant qu'au passage, elle était revenue sur ce qu'elle avait accordé à Renault, tout en ne revenant pas sur ce qu'elle avait accordé à Mercedes.
Donc là, warning, tout de suite, ça y est, direct, on veut pénaliser Renault.
Et après, certains ont parlé d'un complot que Red Bull aurait laissé gagner Ferrari pour avoir la signature de Ferrari. Attention.
Oui, ça m'énerve d'ailleurs. Enfin, je l'ai dit sur le forum, mais ça m'énerve dès que. C'est la morale pour moi de tout ce week-end. Quand on entend et quand on lit sur certains forums des gens qui disent les coïncidences sur la victoire de Ferrari, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent la Formule 1 c'est peut-être naïf ce que je veux dire, mais sans s'émerveiller, sans tout simplement faire confiance. Forcément, dès qu'il se passe un truc, c'est qu'il y a quelqu'un machiavélique derrière qui a orchestré un complot. Alors effectivement, quand on parle de la Red Bull, automatiquement la Red Bull, si elle est meilleure, c'est parce qu'il y a quelque chose d'illégal, c'est obligé. Dès que Ferrari gagne, tout d'un coup, il y a les théories du complot, FIA, Ferrari, ça devient vraiment fatigant, quoi. À chaque fois, c'est toujours le même refrain. Et c'est, on vire à la paranoïa, quoi. Et ça devient n'importe quoi. Et malheureusement, l'épisode auquel on a eu le droit ce week-end a fait qu'il y a certaines personnes, eh ben, qui se disent maintenant que oui, tout est politique, que chaque chose qui se passe en Formule 1 a un ressort. Je suis peut-être naïf. C'est vrai que je suis peut-être naïf. Mais de là, imaginez quand même qu'une écurie comme Red Bull offre la victoire à Ferrari, alors que finalement, on s'est rendu compte qu'ils perdaient pas tellement que ça. On peut même pas vraiment juger des écarts puisque les conditions ce week-end étaient quand même très particulière. Enfin, c'est incroyable, quoi.
Espèce de paranoïa.
Mais c'est dire à quel point c'était puissant ce week-end que on a il y a la nouvelle pit lane qui a fait beaucoup parler d'elle et on a Red Bull qui est allé se plaindre parce que ils étaient trop proches de la ligne de sortie de la pit lane que la vitesse en course de 100 km/h qui est la vitesse prévue pour chaque course en course. C'est-à-dire que les essais en qualif c'est 60 km/h maximum, en course c'est 100 km/h. C'est prévu dans le règlement, c'est généralement ça. Et ils sont allés se plaindre parce qu'en fait comme eux ils sont plus près de la pit lane, ils atteignent pas les 100 km/h, donc du coup ils sont pénalisés par rapport à McLaren et à Ferrari sur les arrestants, quoi. C'est-à-dire à quel point ils sont paranoïaques au point d'en venir à suspecter des mauvaises intentions de la FIA sur ça, quoi.
Alors, puisque tu parles de la pit lane.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Alors vous pourriez vous dire, ouais, ça va encore être un drive-thru à la con, tout ça. Mais non, parce que vraiment, ils ont un peu merdé avec cette pit lane, cette nouvelle pit lane de Silverstone. Alors, je vais pas parler du fameux bâtiment Wing. Bon, j'ai envie de dire, on aime ou pas, moi je trouve personnellement, ça fait moderne, ça change à Silverstone. Non, le problème...
C'est vrai que ça change.
Ça change, ah, ça claire, ça change. Non, le problème de cette pit lane, c'est plus tracé, c'est plus sa piste. Il y a d'abord son entrée, hein. Qui coupe trois virages? Et on dirait pas comme ça trois virages, mais c'est quand même énorme. Vous avez peut-être été surpris de voir que lorsqu'il y avait des sanctions, alors qu'on avait habituellement des drive-thru, cette semaine, on a eu droit à des stop-and-go, avec donc arrivée au stand et arrêt de 10 secondes. Pourquoi ils étaient obligés de faire des stop-and-go de 10 secondes? Eh bien parce que s'ils avaient fait un simple drive-thru, bah en fait, le pilote n'aurait pas perdu de temps.
Enfin, à peine 5 secondes.
Voilà, à peine 5 secondes. Ils étaient obligés de faire un stop and go pour qu'il y ait, entre guillemets, une vraie pénalité. Donc, il y a déjà ça.
Non, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, quasiment une ligne droite jusqu'au bâtiment. Après, il y a un angle droit sur la droite. Et la ligne de chronométrage, enfin, la ligne où on doit s'arrêter, elle est vraiment juste avant le virage. Ce qui fait qu'on avait des endroits où les mecs sur la piste étaient à peine en train de freiner à la chicane. Qu'on voyait sur le côté la voiture qui était juste derrière lui à l'entrée des stands, qui était juste derrière lui, on voyait déjà la voiture qu'elle était à l'autre bout en train de freiner. Donc
les commentateurs ont même évoqué le fameux cas de Donington. Senna avait battu le meilleur temps en passant par les stands.
C'est ce que Massa aurait dû faire sur la fin de la course.
Ce que Massa aurait dû faire. Donc il y a déjà cette entrée, c'est pas normal quoi que du gris trois virages comme ça. En règle générale, quand on va dire ça coupe, on va dire, un ou deux virages, quand tu rentres dans les stands, soit, en effet, le ralentissement est plutôt perdre du temps, ou bien, c'est pas complètement droit, il y a un virage, quelque chose. C'est pas logique que finalement, on risque de passer dans les stands plus rapidement que sur la vraie piste.
L'année prochaine, ils mettront des dodans.
L'autre truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils l'ont fait en pente. Donc, je sais pas quoi, parce que le côté...
Pour piste, le VIP.
Non, mais alors, c'est... Honnêtement,
c'est uniquement pour le VIP.
Alors, non, c'est...
Ah, oui, alors...
Il y
a deux choses, ouais.
Le bâtiment, en fait, il est fait, c'est-à-dire, pour les garages, il faut que ce soit au niveau zéro. Oui. Sauf que le problème, c'est qu'à cet endroit-là, la piste, elle monte. C'est un passage. Elle monte légèrement, mais c'est un passage qui est en montée jusqu'à la portion arena, les virages oui. Super lents qui est au milieu. Donc, du coup, quand ils construisent le bâtiment, s'ils veulent que ce soit au niveau, ils sont obligés de le construire à un angle zéro, là où la piste, ça fait un angle de 2-3 degrés. Ce qui fait que quand t'arrives vers les garages doux, oui. Forcément, il y a une différence de niveau, c'est en bas. Alors, on a l'impression qu'en fait, la piste, elle est creusée, mais en fait, non, elle est pas creusée, elle est au niveau zéro. Mais le truc, c'est que, il était initialement prévu que, et c'est d'ailleurs généralement comme ça sur les Grands Prix, c'est que les premiers garages, quand on rentre, sont les garages des top teams. Plus on va loin dans la pit lane, plus c'est les petits garages. Sauf que là, c'est Bernie Ecclestone qui a demandé à ce qu'on inverse la grille pour qu'en fait, les emplacements des écuries, que la visibilité soit meilleure pour les VIP.
Donc les gens qui sont en face, dans la tribune en face, les billets sont assez chers déjà, ils voient pas.
C'est entre 300 et 400 livres, les billets.
Et voilà. Du coup, ils n'ont pas pu voir pourquoi Alonso a gagné facilement la course.
Ils n'ont pas vu. Le problème des crews de McLaren, ils l'ont pas vu. Parce que voilà, ils étaient derrière, ça fait un mur hein, quasiment. Ouais, ça fait un mur. Et d'ailleurs, il paraît que même pour les VIP, c'est pas évident hein, parce que les stands sont vraiment juste en dessous. Et apparemment, faut vraiment se pencher. Hein,
oui, parce qu'ils ont fait une sorte de balcon, c'est-à-dire que en fait, il y a le mur, le mur des stands. Enfin, il y a le quand tu rentres dans le garage, il y a le mur. Et normalement, ils auraient dû continuer à la verticale, mais non. En fait, ils ont fait un petit balcon sur le dessus, qui est la terrasse VIP, ce qui fait qu'en fait, le balcon, il déborde sur le stand, ce qui fait qu'en fait, les mecs, ils voient que la voiture.
Voilà.
Ils voient même pas l'intérieur des stands.
Ils devraient faire un balcon transparent.
Oui, voilà. Ah, ça serait bon, ça.
Ça serait top, tu sais, voilà, t'aurais juste baissé la tête et tu verrais. Donc voilà.
Les canaux pourraient se rincer l'œil, hey.
Voilà, c'est juste.
Mais ce qu'aurait...
J'ai espéré qu'il change des choses quand même pour l'an prochain. Oui.
Ce qui aurait été une solution, ça aurait été de, au contraire, plutôt que de la mettre au niveau zéro, ça aurait été de la mettre au niveau de la sortie. C'est-à-dire que de construire le bâtiment, de le surélever pour que finalement, quitte même à ce que les pilotes montent au départ sur la ligne ligne d'entrée des stands, quitte à ce qu'ils montent, mais qu'au moins ça soit au niveau. En plus, il y a peut-être même des moyens pour faire des trucs super sympas.
Du coup, d'un côté aussi, s'ils faisaient ça, le mur des stands aurait été vachement surélevé par rapport à la piste, et du coup, pour les pilotes, pour les pancartes des ingénieurs.
Mais non, mais c'est
là, d'un coup, ça devient nettement plus chiant.
C'est que si tu convaisais ça intelligemment, tu faisais, en fait, deux niveaux. Tu faisais un niveau classique garage à partir de la pit lane, et comme la pit lane est surélevée, tu faisais des petites loges en dessous. Comme en plus ils ont fait une pit lane super large, rien n'empêchait de faire des escaliers.
Aller large, hein, la pit lane.
Et de faire vraiment un endroit de muret et de panotage au niveau du sol de la piste. Et ensuite faire les stands un peu surélevés avec des escaliers et tout. Ça aurait pu faire quelque chose de sympa. Et justement mettre en évidence, c'est quand même un endroit où se passe beaucoup de choses dans la course et dans le week-end, mettre les stands en évidence pour tout le public derrière des parois de verre ou un truc dans le genre, quoi.
On a quand même réussi à mettre un drive hook dans un drive hook.
Oui.
C'était à la suite du drive fou.
Shinji, tu es enfin, très ouais. fort.
Oh, parce que citation.
Oui.
Alors, avez-vous des citations?
Oui.
Ah, vas-y.
Donc, la citation. Donc, non, je ne regrette pas d'avoir refusé l'offre de Red Bull. J'aurais peut-être gagné un ou deux titres de plus, mais je ne serais pas aussi heureux que quand je pilote une Ferrari.
Ah, le fou.
Je crois que pour un pilote, piloter pour Ferrari compte plus qu'un championnat. Donc, citation de Fernando Alonso. Donc, qui a un point de vue assez particulier.
C'est là, je la barre, déjà.
Donc, il montre quand même que la légende de Ferrari reste intacte, malgré son déficit depuis 3-4 années quand même, depuis 2008. Il montre que, pour lui, après avoir remporté des titres, le mieux c'est d'aller dans l'écurie qu'on rêve plutôt, l'écurie qui a un certain renom plutôt que de regagner des titres.
Est-ce qu'il dit pas ça aussi pour faire plaisir aux supporters? Est-ce que c'est pas un peu de com'?
Eh mais je pense qu'il sait quand même très bien qu'il n'aurait pas... Il aurait pas eu le soutien inconditionnel qu'il a chez Ferrari, quoi.
Oui, puis je pense aussi qu'il y a peut-être aussi un aspect qui est important de son côté, c'est qu'il est déjà deux fois champion du monde.
Oui,
et que,
c'est quand même une légende.
Voilà, et puis c'est ce qu'il a raté avec McLaren. McLaren, il voulait être champion du monde avec McLaren, il n'y est pas arrivé. Donc être champion du monde avec Ferrari, c'est un défi, entre guillemets. En quoi, pour Alonso, double champion du monde avec Renault, Red Bull aurait été un défi?
Dans 30 ans, on continuera à parler d'Alonso chez Ferrari? Parce que voilà, on continuera à parler de Ferrari.
Et peut-être de Vettel chez Ferrari.
Ah oui.
Peut-être que dans 20 ans, Vettel sera chez Mercedes.
Non. Déjà, j'ai du mal à le prêter à Red Bull alors. Hein.
Vettel chez McLaren.
Non, non.
Vettel chez...
Tu fais?
Où est-ce qu'il pourrait aller?
J'ai dit, retiens-moi, je vais me barrer.
Vettel chez HRT.
J'ai dit, retiens-moi, je vais me barrer. Et donc toi Shinji, tu as une citation?
Oui, j'en ai une petite. Chaque pilote de F1, et en particulier le champion, doit son succès, son argent et sa popularité à ce sport. C'est pourquoi tous devraient lui rendre quelque chose. Et ces belles paroles, elles viennent de Bernie. Ouais. Il peut être poète.
Et c'est à propos de quoi?
Bah en fait, il admire un peu Sébastien Vettel et l'image positive projette.
Mais il voulait se marier avec sa fille, donc en même temps...
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, la copine de Vettel a pas aimé.
Oh, d'ailleurs, vous avez regardé Dimanche F1?
Non.
Il y avait Jacques Lafitte. Oui. Et les autres, ils étaient à peine en train de draguer Margot devant Jacques. Moi, je sais pas, j'aurais peur.
et qui ramène des bonbons à sa fille, quoi. Qu'il est arrivé, et hop, il a filé un paquet de bonbons à sa fille. Je te ramène ça dans le terre.
Bah, ça va encore, c'est son père, ça aurait été quelqu'un d'autre.
Et ben, des
pédobirs, peut-être.
Un mec comme Bernie, par exemple, les bonbons fusés.
Donc voilà, c'est vrai que Vettel projette une image très positive, malgré le fait quand même qu'il domine quand même plutôt bien, on va dire, l'AF1, il émane de lui. Pour l'instant, bon, on peut être agacé, on peut être un peu, bon, on se dire, bon, ça suffit. Mais malgré tout, il véhicule plutôt une bonne image, on va dire, de lui-même et donc forcément de la F1.
C'est un personnage, tu le sens, t'as l'impression qu'il est, il est 100% lui-même, quoi. Il est, tu pourrais le croiser et déconner avec lui, voilà. Si t'es sur la même longueur d'onde que lui, t'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un que tu pourrais déconner avec lui. Je pense que notamment, il en a rien à foutre de son image. Il est 100% tel qu'il est. C'est peut-être l'un des mecs qui calcule le moins son image dans le paddock.
Bah, t'as pas vu son interview qu'il a donné avant la course?
Non.
En gros, il parlait aux journalistes et il ne connaît pas son avance au championnat. Et il a expressément demandé: ne me dites pas mon avance en championnat, j'en ai rien à faire et je veux pas le savoir. Tout ce qui m'importe, c'est gagner.
J'ai tout compris.
C'est je prends chaque course comme ça vient, j'accumule des points et je verrai la fin.
Un jour, il va finir premier, puis il va pas comprendre pourquoi tout le monde se jette sur lui.
Ne me dites rien! Je veux pas savoir que je suis champion du monde!
Non, mais là, comme il dit, il sait juste qu'il est premier et qu'il y avait Button derrière lui.
Ouais, voilà.
C'est déjà pas mal.
Ce qui était vraiment intéressant dans son interview sur Top Gear, enfin dans Top Gear, c'est que bon, les mecs de Top Gear, ils sont allés un max sur le fait qu'ils dominaient la saison, sur le fait que, voilà, bon, je peux vous le dire parce que vous avez sans doute vu l'émission, mais il a signé le meilleur temps. Donc il a battu tous les pilotes de Formule 1 qui sont venus. Signé le meilleur temps. Et là, il interview, à la fin, ils mettent la vidéo du tour, et ils reviennent en plateau. Et comme là, il a battu le meilleur temps, en plateau, tout le monde a applaudi. Et là, il y a Jeremy Clarkson qui tourne vers le public, qui dit: mais vous vous rendez compte que ça nous surprend, là? On devrait pas être étonné. Alors en plus, comme ça a été enregistré vendredi, mais que c'était diffusé dimanche soir, Jeremy Clarkson lui a dit: bon, alors après ta victoire cet après-midi, quand même. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être plus drôle à faire. Donc il a dit: on va imaginer un peu comme au Canada qu'il a perdu, qu'il a fini deuxième. Et il s'est mis à dire: ah, quand même, hein, cette météorite en plein milieu de la piste, c'était quand même assez étonnant. On n'avait jamais vu ça en Formule 1.
Non, c'est bien quand même d'avoir comme ça quelqu'un qui véhicule de si bonne image.
Ouais, c'est vrai que ce qu'on a l'impression, c'est que pour le moment, en tout cas, sa domination n'a pas trop d'impact. Alors oui, il y a un truc, c'est sa fameuse histoire, son index qu'il lève après la pole, etc. Il a même été obligé de réagir avant le Grand Prix en disant: mais vous savez, moi je fais ça, c'est un réflexe, quoi. Il y a pas de message derrière, il y a rien. Et c'est, apparemment, ça énerve plein de monde. Moi, je sais que Froissart, ça fait des mois qu'il trouve que Vettel est super prétentieux avec son index quand il lève son index, quand il gagne.
Tant qu'il lève pas le majeur, j'ai envie de dire, ça va. Il fera ça, un message caché.
Avec les résultats qu'il a, il a le droit d'être arrogant de toute façon.
Il a le droit de lever l'index surtout.
Voilà.
En fait, il montre, c'est ça mon secret. Il n'a pas réussi à voir encore.
Sinon, Dino, est-ce que tu as une citation?
Alors oui, moi j'ai une citation. Je vais même faire un petit jeu. Je vais vous demander si vous savez qui est Graham Lowden.
Graham Lowden.
C'est le retour du petit jeu.
La réponse. Pas,
promoteur du Grand Prix?
Non.
Un ancien pilote Ferrari?
Non.
C'est un Anglais?
Je suppose, oui.
C'est un journaliste?
Non.
Est-ce qu'il a un rapport direct avec une des équipes?
Oui.
C'est un membre d'une des équipes?
C'est un membre. Enfin, d'une équipe.
C'est le type qui était chargé de la roue avant droite chez McLaren?
C'était le type qui était chargé de la sucette chez Red Bull?
Non.
De la sucette chez Sauber?
Non. C'est quelqu'un de plus important. C'est justement ça qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui est quand même relativement important.
C'est quelqu'un de l'équipe de ravitaillement?
Encore plus important.
Est-ce que c'est un ingénieur de course?
Encore plus important.
Est-ce que c'est un patron d'une équipe?
Un petit peu moins important. On va dire que c'est un responsable d'une équipe.
Directeur technique?
C'est un responsable administratif. Hein. On dirait que c'est une sorte de team principal adjoint.
Maintenant, de quelle équipe? Chez Williams?
Non.
Chez HRT?
Non.
Chez McLaren?
Non. Donc c'est vrai que l'adjoint chez McLaren, je le connais pas. Tout comme je ne connais pas celui chez Ferrari.
Donc c'est pas chez Ferrari.
Chez Mercedes?
Non.
Chez Red Bull?
Non.
Chez Force India?
Non.
Chez Sauber?
Toro Rosso?
Non.
Lotus?
Non.
Virgin.
Oui, bravo. C'est un responsable de chez Virgin qui était invité à la conférence des fans, au forum des fans à Woking. Vous savez qu'il y a le week-end entre les deux derniers Grands Prix, il y a eu une conférence des personnalités de la F1 avec des fans pour discuter de ce que veulent les fans et compagnie.
Et donc il y a quelqu'un que personne ne connaît qui a été.
Ben voilà, c'est un responsable de l'écurie Virgin et il a déclaré. C'est un marathon absolu et vous devez emmener votre Kit Kat avec vous.
Ouais, c'est comme ça, tu peux avoir un break parce que avec break, avec Kit Kat.
Parce qu'en fait, il racontait la première fois où il est allé participer au gala de fin d'année d'attribution des titres FIA. Il s'est dit, c'est incroyable le nombre de titres qu'on peut attribuer lors de ce gala. Ça dure des heures et des heures. Donc, ouais. C'est un vrai marathon et vous devez emmener votre Kit Kat avec vous. Voilà, sinon vous allez mourir. Et c'était dans le cadre d'une réflexion un peu plus globale sur le fait que finalement les champions ne sont jamais véritablement titrés. C'est-à-dire que si par bonheur le champion a la chance de monter sur le podium, sur le Grand Prix où il est titré, il a le droit au champagne, quelqu'un comme Räikkönen en 2007 par exemple. Ouais. Mais on se souvient par exemple du titre de Lewis Hamilton, qui a remporté le titre en 2008, sans monter sur le podium, ça s'est fini en bout de pit lane, il descend la voiture, tout le monde lui jetait dans les bras. Pareil pour Jenson Button, il y a 2 ans. Bon, l'année dernière, on a eu le droit à un beau podium lors de la dernière course avec Adrien Sutil. Oh là.
Non, lui, il avait la coupe de champagne, mais sans champagne.
Ouais. Avec Sébastien Vettel. Et c'est vrai qu'il y a certains fans qui disent ça manque un petit peu de contact avec le public, surtout qu'en plus, il arrive parfois que le pilote, sur l'instant, soit champion du monde. Mais qu'en fait, après, avec les règlements techniques, puisse y avoir des réclamations. On se rappelle que Räikkönen, par exemple, il avait fallu quasiment une journée pour que son titre soit confirmé parce qu'il y avait, je crois que c'est les BMW, les Williams, qui avaient un carburant, dont la conformité faisait un doute. Et comme ils avaient fini devant Hamilton, ça aurait fait gagner des places à Hamilton. Donc, du coup, ça aurait fait gagner le championnat à Hamilton plutôt qu'à Räikkönen. Donc, ils disent, c'est vrai qu'il n'y a pas un événement public où le champion est titré, quoi. Où c'est une manifestation.
Ouais, c'est une fête. C'est au gala, c'est con.
Et moi, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce qu'il y a quand même un truc qui se déroule en fin d'année où généralement la plupart des champions FIA participent. En tout cas, le rallye WTCC, la Formule 1, généralement, les pilotes y participent, qui pourraient très bien s'organiser facilement puisque ça existe déjà depuis quasiment 30 ans. C'est la course des champions.
Ouais, mais c'est pas un événement FIA.
Voilà, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi ne pas organiser, soit s'associer, soit organiser leur propre manifestation. La course des champions, c'est une course qui réunit plusieurs champions, c'est un truc de gala, voilà, c'est un spectacle devant entre 80 et 90 000 personnes dans un stade. Et ça aurait été l'occasion pour les champions de faire le show, de s'amuser et de bien clore la saison. Ça peut très bien être retransmis à la télévision, voilà, et passer sous l'égide de la FIA. Il faudrait trouver un accord. Donc, je me disais, voilà, pourquoi pas ça, pour titrer les champions. Vous, par exemple, tous deux, qu'est-ce que vous feriez pour titrer les champions?
Bah, déjà, on peut peut-être faire en sorte que le gala, parce que le gala, c'est quand même un truc très fermé, très classe, entre VIP.
Un truc un peu à l'américaine, comme en NASCAR.
Peut-être, ouais. Oui, quelque chose de...
Il y a le gala,
plus
mais
de
il y a
public,
aussi
voilà.
Un truc dans la ville, des démonstrations et compagnie. C'est vrai que le gala de New York, enfin maintenant c'est Las Vegas, il y a énormément de choses en NASCAR avec le public dans la ville, avec les pilotes de NASCAR, c'est vrai.
Mais tu vois, pour le fait que c'était à Monaco, ça avait en plus sens. T'imagines faire le gala, puis ensuite faire peut-être un truc dans les rues de Monaco.
Ça reste très élitiste quand même.
ouais, mais peut-être aussi une meilleure diffusion télé. Alors ça, je crois que ça passe sur Eurosport, mais quand ça passe, c'est très discret. Enfin voilà, c'est pas un grand. On n'a pas l'impression que ce soit un grand événement du sport et tout ça, alors ouais. Que ça devrait l'être. Un peu comme lorsque la FIFA donne ses titres en fin d'année, des choses comme ça, quoi. Vraiment, voilà, le truc. Qu'au moins, ça soit quelque chose peut-être de plus télévisuel.
Et toi, Antoine, ta solution pour rendre le sacre du champion plus public?
Bah peut-être ouais justement vérifier toute la réglementation en amont.
Ouais.
Et directement le faire le soir quoi, c'est à la limite le soir après la course.
Ouais.
Parce que généralement après la course, bon, on sait déjà qui sera le champion, à moins vraiment d'un cas de force majeure.
Et pourquoi pas ouais autoriser qu'il y ait un deuxième podium lorsque le titre en effet est joué quoi.
C'est vrai que quand on voit Hamilton qui peut pas monter sur le podium, en même temps, je suis pas sûr qu'il aurait été super bien accueilli cette année-là.
Ou bien si c'est pas lorsque le titre est joué d'avance, qu'on dise voilà lors du dernier Grand Prix, il y aura un deuxième podium avec le podium du championnat.
Donc la remise de la coupe.
Ouais.
Voilà, c'était ma citation.
C'était de bien belles citations.
Merci, Shinji.
On va passer à la course.
Ah oui.
Et au calife.
Ah oui.
Je les ai pas vus.
Mais qu'est-ce que tu viens faire dans cette émission si tu les as pas vus?
Une calife à 25 acteurs, hein, 24 pilotes et la pluie.
Oui.
Elle a quand même beaucoup joué, faut bien le dire.
J'aurais dit 26 avec la FIA qui a pas arrêté de changer le règlement.
Oui, aussi, c'est vrai.
Ça, c'était quand même très tendu. Enfin, on sentait quand même... Déjà le matin, quand tu vois dans les essais libres, que quand tu vois Adrian Newey et Christian Horner qui se baladent dans le paddock, déjà tu te dis qu'il y a quelque chose de pas bien qui se passe, hein, quelque chose d'anormal. Et quand tu apprends que, quoi, 5 minutes à peine avant le début des qualifications, les patrons d'écurie sortent d'une réunion, tu te dis, ah bah dis donc, ça va être bien pour la séance.
Donc en Q3, notre place du con, même deux.
Il y a deux cons.
Il y a deux cons.
C'est une œuvre collective, on dira.
Mais deux habitués.
Bohémie, pas trop, quand même.
Non, voilà, c'est surtout Alguersuari.
Alguersuari, hein. Et pourquoi il y en a deux? Eh bien, parce que Kovalainen, quand même, il se qualifie en Q2, quoi. Faut quand même toujours le souligner et l'applaudir, hein, comme c'est Lotus.
Bah, ils ont eu de l'instinct.
Et pour faire deux tours après, quoi. Malheureusement.
Ouais. Mais c'est un peu encore une fois, c'est quand on regarde pour un peu anticiper sur ce qu'a fait Lewis Hamilton, où on a été un petit peu présomptueux chez McLaren puisqu'on a fait partir en Q3 Hamilton avec des pneus tendres usagés, mais avant ensuite de le faire partir en pneus neufs, ce qui le problème c'est que quand la pluie a commencé à tomber, les pneus neufs ne servaient plus à rien. Là eux, c'est le truc des petites écuries, c'est comme elles ont pas le choix, elles de toute façon elles ont pas calculé, elles sont tout le temps au taquet avec les pneus etc. Donc du coup elles sont tout le temps en train de rouler et tout le temps en train d'exploiter les conditions. C'est ce qu'a profité ce week-end à Kovalainen.
À noter, sont restés aussi en Q2 Schumi, encore une fois, hein, 13e, c'est quand même très moyen. Les deux Lotus Renault, hein, Petrov 14e et Etfel 16e.
Ça commence à devenir malheureusement habituel.
Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient... Alors, ils avaient annoncé qu'ils allaient supprimer les échappements sur les côtés. Maintenant, ça va être fait, malgré le retour en arrière de la réglementation.
Ouais.
C'est dommage quand même. Notez Perez 12e, Sutil 11e. Et donc, en Q3, un étonnant Lewis Hamilton, en effet, 10e seulement.
Mauvais calcul. Un peu comme à Monaco d'ailleurs, je crois. Le scénario est différent, mais c'est encore une fois. Mais c'est le problème des grosses équipes, quoi. C'est que les grosses équipes sont obligées de gérer, de compter les pneus, de compter les. Enfin, c'est contrairement aux petites équipes qui ont le luxe de pouvoir tout faire à fond, ils peuvent rien faire à fond.
À noter un étonnant trio, hein, parce qu'on a quand même Di Resta qui fait 6, Maldonado 7 et Kobayashi 8.
Bah, c'est Di Resta peut-être le plus étonnant.
Oui, parce que c'est vrai que Maldonado, en qualif...
Ça faisait déjà 2-3 fois qu'il se qualifiait, je crois.
2-3 fois, ouais.
3.
C'est dommage que ça se concrétise pas trop en cours, je trouve.
Pas du tout.
Pas du tout, même. Et donc, on a Alonso en 3e place. Mais, aux deux premières, on a bien les Red Bull. Mais, pour une fois, c'est pas dans l'ordre qu'on attend. Il n'y a pas l'ordre qu'on avait d'habitude, puisque c'est Weber devant Vettel. Alors par contre, l'écart, c'est 32 millièmes quand même, c'est pas beaucoup.
Même avec Alonso, hein, c'est très serré. Hein.
Très serré, ouais, 117.
Bon, je pense que le manque de... Puisqu'ils ont fait toute la journée de vendredi sous la pluie, ils n'ont rien pu préparer et compagnie. Je pense que c'est surtout ça qui fait que les écarts sont infimes, quoi, parce que...
Et puis bon, s'il n'y avait pas eu l'averse, est-ce que Vettel n'aurait pas fait un dernier run quand même? La pluie a quand même un peu interrompu, on va dire, la Q3.
Mais ça, c'est ça qui est terrible ce week-end dans l'ensemble, c'est que ce soit par les conditions, par la réglementation, on saura finalement rien du vrai potentiel de chacun. Ferrari a amené plein de nouveautés maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils ont des nouveautés qu'ils ont mieux fonctionné ce week-end, ou est-ce que c'est à cause de la réglementation? Même la réglementation, on peut pas en juger, personne n'est capable aujourd'hui de dire ce qu'a coûté exactement à chaque écurie, enfin la réglementation sur les échappements ce week-end, quoi.
Et le pire, c'est que comme ils reviennent en arrière, finalement...
On le saura jamais.
En 2012?
Oui.
Et donc, c'est la 8e pole position pour Mark Webber, la 29e pour Red Bull, la 184e pour Renault, à une moyenne de 234,6. Pour l'instant, ils n'ont pas fait grand chelem pour l'instant, Red Bull,
oui,
en qualif.
En qualif, ouais.
Oui. Ouais, en qualif, bien sûr. Ça doit être 6 contre 2, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, puisque Webber a aussi fait la pole en Espagne.
C'est vrai, on l'oublie.
Donc sinon au classement de la qualification, donc sur si on appliquait le barème Formule 1 juste à la qualification, on aurait donc 17e Sutil, même pas je dis 17e, non, 16e Execo, Sutil et Perez, Buemi qui perdrait une place, 15e Alguersuari qui perdrait 3 places, 14e Kobayashi qui lui gagnerait 2 places, 13e Di Resta gagnerait une place avec 12 points, même 2 places avec 12 points, Execo avec Maldonado, Nick Heidfeld restera en même position, 10e 14 points, pareil pour Schumacher, 9e 23 points, Petrov 8e 28 points, ensuite nous avons Rosberg qui perd une place au profit de Massa, le Brésilien est 6e avec 68 points, Rosberg a 63 points, Button est 5e avec 102 points, Hamilton perd une place au profit d'Alonso, Alonso est 3e avec 109 points, Hamilton est 4e avec 106 points, et les Red Bull sont loin devant, 143 points pour Weber en 2e position, et surtout Vettel, 1er et très très loin, 211 points.
Mais Weber qui théoriquement réduit son écart.
Voilà.
Faut le dire quand même.
C'est-à-dire que sur les qualifications, il n'y a même pas de championnat.
On va passer à la course.
Oui.
Au top 10.
Ouais.
Cette semaine, vous avez fumé du crack.
Oui.
Alors, dis-nous, donnez les pilotes qui ont eu des points, mais qui sont en dehors du classement.
Alors déjà...
Et pilote de F1 en 2011.
Non, déjà, je peux vous signaler que le vainqueur du jour a inscrit 608 points, mais nous ne donnerons pas son identité. C'est un mystère.
Mystère.
Et que donc, nous avons 4 pilotes qui ne marquent pas de points. Trulli, D'Ambrosio, Liuzzi et Glock. Nous avons Ricciardo qui est en 20e position, qui marque 2 points pour ses débuts. Nous avons Buemi qui marque 19, qui est 19e et qui marque 3 points. Kovalainen 18e marque 5 points. Maldonado 17e marque 9 points. Rubens Barrichello 16e 12 points. Vitaly Petrov 15e 14 points. Adrian Sutil 14e 16 points. Rémy Alguersuari 13e seulement, j'ai envie de dire, 32 points. Paul Di Resta, en même temps c'est vrai qu'il y en a qui sont chargés à mettre des points à certains pilotes que... Enfin je me comprends. Di Resta, 11e ex aequo avec Kamui Kobayashi, 59 points. À savoir que ça a été très très serré pour la 10e place, qui potentiellement était en réalité une 11e place, puisque vous êtes des gros malins.
Donc on peut noter hein, les pilotes que nous on a donné des points mais qui sont en dehors du top 10.
Il y en a plein.
Dino, tu as donné 2 points à Di Resta.
Oui. Bah il fait d'abord il fait super qualif et puis en course sans son problème de stand il est encore devant Sutil.
Oui. Mais de toute façon enfin ça devient une habitude hein quand même cette année. Hein.
Oui mais ça mérite d'être signalé. En plus il a devant son public c'était un peu mieux. Enfin c'était très bien en qualification, en course c'était bien. Il a sa course gâchée par son stand. Après il repart en pneus durs. Les pneus durs c'était peut-être pas forcément le meilleur choix à faire.
Et VJ veut le garder hein, pour l'an prochain. Hein. Il va pas le lâcher à Mercedes comme ça. Hein.
Ah bon? Étonnant.
Un peu normal quand tu vois le pilote que c'est.
Étonnant. Dino, tu as donné 1 point à Kovalainen.
Oui. Bah pour sa qualification hein, principalement. Et parce qu'on n'a pas noté, pu voir vraiment en course.
On a donné des points à Alguersuari. Moi j'en ai donné 1 et vous deux vous en avez donné 4.
Oui. Les auditeurs ont de la merde dans les yeux quand même. Enfin je suis désolé. Hein.
C'est vrai qu'il a pas très très bien été noté. Il a fait que 32 points. Ouais,
mais en fait on l'a pas vu.
Ah bah c'est son problème. Quand même, problème,
il y a
hein.
Quelques passes d'armes avec son coéquipier et avec
très belle début,
je crois Petrov.
C'est encore une fois Alguersuari par 17e finit dans les points. Bon d'accord, 18e. Il y a des abandons mais ouais 18e tout à fait.
À la place du con lui réussit.
Puis surtout il est en course devant son coéquipier.
Bah c'est la place
qui va abandonner après mais en course il est devant son coéquipier.
Ouais, c'est la place du con pas si con que ça quoi.
Voilà.
Ah bon.
C'est une stratégie.
Bah, apparemment, c'est vrai que depuis le début de saison, eux, ils se concentrent pas sur la qualif. Hein. Ça, c'est une certitude. Ça, en même temps, ça se voit.
En Chine, ils étaient pas mal. Hein.
C'est dommage. Vous vous souvenez, avant, alors que la pré-saison, on se disait, Dieu, qu'est-ce que c'est Toro Rosso avec ses pontons latéraux. Là, on se dit, oh là là.
Ouais. Elle bon. Était rapide, en plus. Pendant
elle était rapide, c'est vrai. Elle était rapide.
La McLaren.
Alors, je peux même nous reciter.
Oui.
Dans le guide du SAV, vous pouvez toujours acheter 15,99€ hein, sur thebookedition.com.
Là, c'est bien parce que plus les semaines passent, plus ce qu'on a marqué devient des conneries parce que ça devient complètement oui. L'opposé de ce qui s'est
donc,
passé.
Donc, Shinji, tu disais, Toro Rosso peut-elle être le coup de Trafalgar de la saison? Les temps en essai hivernaux semblent le prouver, l'équipe elle-même cherchant d'ailleurs à être très prudente par rapport à cela. C'est sûr, on imagine mal l'équipe championne en fin d'année, mais elle pourrait tout à fait se retrouver en milieu de peloton, ce qui la changerait des 9e et 10e places, exception faite du Vettel Effect.
En même temps, ils sont septièmes.
Bah ouais, en même temps.
Ils sont septièmes.
Au final, avec les courses qu'ils font.
Non, non. Des neuvième et dixième places en course.
Dans non, je vais dire 9e, 10e place au classement parce que.
Ouais, ouais, c'est pas notre attrapé, c'est du. T'as dit une connerie, t'as dit une connerie. C'est d'autant plus remarquable que désormais Toro Rosso doit construire ses voitures comme une grande. Et parce qu'il y a forcément un truc, il est vraiment intéressant de voir les pontons rehaussés et profilés, créant un système de double plancher canalisant l'air vers l'arrière de la voiture. Un système qui pour l'instant semble montrer son efficacité, même s'il n'est pas nouveau, CF la Ferrari F92A de 1992. Avec une telle monture, l'opposition entre Buemi et Guarcellari s'annonce palpitante, d'autant que l'écart entre les deux semble s'être réduit l'année dernière. Leur combat cette saison pourrait avoir d'importantes conséquences car l'opportunité d'un baquet Red Bull en 2012 apparaît tandis qu'inversement, en cas d'échec, la liste de jeunes pilotes lorgnant sur leur place ne cesse de grandir. En effet, les places valent cher dans la filière Red Bull. T'avais pas trop dit des conneries en fait.
Ça va? Qu'est-ce que t'as mis toi?
Fais pas lire. La saison 2010 a été si médiocre que l'on ne s'attendait sans doute pas à voir la Toro Rosso aussi affûtée lors des essais hivernaux. Faenza a conçu sa monoplace toute seule et la STR6 se distingue visiblement de sa cousine, puisqu'elles ne sont plus vraiment sœurs désormais, la RB7. L'interprétation de la suppression du double diffuseur est d'ailleurs totalement différente de celle des ingénieurs de Red Bull. La STR6 aborde des lignes pures et s'avère finalement très italienne dans son design. Retrouver sa liberté de conception est sans doute la meilleure chose qui puisse arriver à cette équipe, qui, rappelons-le, à l'époque de Minardi, constituait un réservoir de jeunes ingénieurs astucieux qui faisaient leurs armes avec des moyens limités. Maintenant, Toro Rosso mérite-t-elle d'être désignée par les pilotes McLaren comme de potentiels rivales? Sans doute que les gris n'y croient eux-mêmes pas, mais Toro Rosso pourrait nous faire le coup de Force India l'année dernière, en espérant qu'elle arrive, elle, à maintenir son niveau de développement sur toute la saison. Côté pilote, Buemi doit se faire pardonner d'une saison 2010 assez décevante, tandis qu'Alguersuari doit confirmer le progrès entrevu, où l'enjeu pourrait ne pas se limiter à une place au championnat. On disait pas des conneries en fait.
Non, de toute façon, si vous voulez vraiment lire des conneries, regardez plutôt les pages contre McLaren par exemple.
Oui. Et Ferrari par conséquent.
Voilà.
Enfin, surtout la partie où c'est moi qui parle.
Oui.
Voilà, c'est un peu notre cadre d'auto pour moi.
Passons au top 10. Et est arrivé 10e avec 61 points. En effet, ça s'est pas joué à beaucoup. Nick Heidfeld.
Waouh, la foule est en délire.
Nickel fait. Antoine, toi, tu lui as mis 2 points. Et c'est toi. Ouais. Nous, on s'en fout.
Vas-y, Antoine, assume.
Vas-y, assume.
Ah bah, c'est juste que bon, il est quand même remonté de la 16e place, quoi. C'est tout. Il s'est bien défendu contre Aguersori, qui lui a quand même poussé au cul à bon moment de la course. Puis avec une voiture pas au niveau, bon, il arrive quand même dans les points, quoi, ça. C'était 2 points, comme ça.
En même temps, c'est que 2 points. On va pas en demander plus.
Voilà.
Et t'es arrivé 9e. Avec 140 points, donc là, quand même, il y avait un gros creux. Et à noter que, théoriquement, c'est là que vous avez fumé du crack, les gars.
Directement, le creux n'était pas si grand.
Oui. Il y a un pilote qui en fait, est arrivé 10e en nombre de points, qui a roulé à Silverstone ce week-end, mais pas en F1. C'est Romain Grosjean et vous. Alors, je sais pas, est-ce que c'est des gens qui se disent, ouais, allez, on va foutre le bordel dans le SAV. Romain Grosjean a eu 101 points quand même.
Ouais.
Voilà. Donc, théoriquement, oui, il est dixième en fait. Mais non, il est pas dixième. On prend pas en compte les pilotes qui n'ont pas fait de F1. Donc,
mais il en a fait techniquement de la F1.
Oui, mais pas.
Oui, mais pas cette année. C'est une organisation au crime organisé, ça. Hein.
Ou c'est Romain Grosjean lui-même.
Oui, c'est peut-être. Et donc, à la 9e place, avec 140, donc il fait un gros creux, mais en réalité, il n'y a pas un si gros creux que ça. Ça dépend sur qui on se base. Et arrivé 9e, Nico Rosberg. Alors Nico, moi je lui ai mis 2 points.
Merci, Antoine, j'ai dit. Merci de faire la transition comme ça, nickel. Après ce long silence.
Non, bon.
Donc toi, tu lui as mis des points, j'ai dit.
Oui, bon, je lui en ai donné 2. Hein. C'est pas... Je lui ai donné les restes.
Ah non, c'est moi qui lui ai donné les restes.
Ah, c'est horrible.
Et en fait, c'est parce que j'en ai oublié qu'il a eu des points. Je pense qu'en voyant mon top 10, t'as pu voir un grand absent que j'ai complètement zappé.
Oui, c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, merde, mais attends. Oh, elle est dure quand même.
Mais non, mais je l'ai complètement oublié en fait.
Ah, je suis curieux de savoir.
En même temps, toi aussi, tu as oublié. Pas, tu l'as pas oublié,
oui,
mais ça.
Il a pas fini la course.
Non, mais c'est pas le même. Hein.
Ah.
C'est pas le même.
Lui, il a oublié celui qui a fini la course.
Tu vas voir. Non, Antoine, t'as envie de... Non, toi non plus, t'as... Oui, bah, voilà.
Ouais, il a fait une course à la Rosberg, il s'est viandé dans le premier tour, puis après, bon...
Mais ça, il fait même plus des courses à la Rosberg, parce qu'il fait... Même au final, les résultats sont terribles que ça, quoi.
Il lui arrivait quoi pour se retrouver comme ça, là, 12-13e après le départ?
Je sais pas, parce qu'en plus, le départ était plus fluide. Il y a pas eu
de parce qu'il y a quand même Schumacher qui se retrouve quoi 7-8e
oui, lui, par d'un contre, ou deux tours.
Il fait un super départ en partant 13e et Rosberg il fait le chemin inverse quoi.
Peut-être Schumacher qui a tapé dans le tas.
Peut-être. Oh, c'est, ça, pas, c'est, pas la... c'est pas son genre.
Ça fait quand même quelques courses quand même Rosberg, c'est pas ça. Hein.
Motivation.
Ah mais là ça c'est le momentum mais en sens inverse lui hein.
L'an dernier il s'est déchiré là, pour cette année j'ai pas l'impression qu'il se déchire.
Il se déchire mais dans l'autre sens.
Voilà, je pense que c'est comme Sutil, je pense que c'est comme Timo Glock, c'est des mecs qui sont non, cette Sutil, année pas motivés.
Sutil il ne se déchire pas, il déchire la gorge des autres.
Non, il projette du champagne.
Oui.
Qui a le malheur de blesser les gens.
Parce qu'il a des goûts de luxe.
Pas mal.
Allez, on va passer à la 8ème place.
Oui.
Avec un pilote sober. Et pour une fois, ça n'est pas Kobayashi.
Mais qui est donc?
Putain, il est bas.
Ah oui, parce que moi je lui ai donné 6 points et vous deux vous lui en avez donné 8. Et en effet, il est que 8ème.
Il fait une putain de course, quoi, merde.
Il fait la course de sa vie, ouais.
Il est à la course avec Rosberg.
Perez, 45 points.
Sur une Sauber, il est devant son coéquipier à la régulière en course. Enfin, il fait une putain de course, quoi, et vous lui donnez... Ah, merde.
J'ai hésité à le mettre premier, quand même. Hein.
Mais moi, j'ai failli le mettre sur le podium. Hein. Mais je me suis dit non. Voilà. Dino, calme-toi.
Chose à rajouter sur Perez, malgré qu'il a fait une putain de course.
Bah c'est la première fois qu'il marque des points, je crois, depuis son accident à Monaco.
Oui.
Oui, tout à fait, ouais.
Et non, c'est bien. Enfin, en plus, dans des conditions compliquées, c'est encore une fois, je suis pas sûr de me rappeler où il part. Il part 12-13e, je crois.
12e, il part devant Schumi.
Il part 12e. Il arrive, il finit 8e, il se sort des pièges. Il est le 2e pilote sur une stratégie à 2 arrêts, puisque les 5 premiers ont fait des stratégies à 3 arrêts. Voilà, il profite des abandons, mais il fait une très grosse course. Honnêtement, quand on voit quand on regarde la course, c'est la première fois que je regardais une deuxième fois un Grand Prix aujourd'hui. Et en regardant une deuxième fois un Grand Prix, c'est vrai qu'on se rend compte de comment dire des bah, de plein de choses qu'on n'avait pas vues, quoi. Avec le recul qu'on peut avoir, on se rend compte de plein de choses. Et c'est vrai qu'on voit très peu Perez, mais à chaque fois qu'on le voit, il a la lutte avec Rosberg. Il a l'attaque, quoi. Donc, c'est une très belle performance.
On va passer à la 7ème place. Avec un pilote qui n'a pas fini la course. Mais, c'est pas de sa faute.
Il a perdu un bout en route.
Il a pété les boulons.
C'est Jenson Button. Donc, moi, je lui ai donné 8 points. Antoine lui a donné 10 points. Dino, tu lui as pas donné de points?
Oui, non.
Non, pas envie.
Bah, il finit pas la course et il a pas non plus fait grand chose en course, qui fasse, voilà, on sait qu'il aurait fini, de 5-6e. Maintenant, en course, il a pas non plus montré qu'il pouvait, par exemple, taper le podium, enfin.
Et donc, pour le coup, erreur de l'homme à la sucette, hein, parce qu'on voit bien sur la vidéo, le type veut changer de pistolet. Il lève pas le bras.
Et sa main bouge en fait.
Ouais, sa main bouge, mais il lève pas le bras. C'est pas le signe.
Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de problèmes avec le problème de Kobayashi aussi, dont on parlera pas parce que Kobayashi n'est pas dans le classement, mais ça que.
Mais Kobayashi, c'est de sa faute par contre.
Mais c'est aussi, c'est-à-dire que il y a tellement de tensions, faut quand même se rendre compte que les mecs font quand même un changement de pneu en 4 secondes. Alonso en a fait en 4 secondes 2, on a dit à la télévision que c'était pas terrible.
Hein,
le record, je crois que c'est 3 secondes 6 ou 3 secondes 7 l'année dernière. C'est Red Bull, je crois qu'il a le record. Donc c'est quand même des changements de pneus qui sont ultra rapides et où donc c'est-à-dire que on est plus dans l'ordre du réflexe maintenant que dans l'ordre de la vraie attente. Et il suffit juste que le pilote interprète un mauvais mouvement pour qu'il parte, c'est sans doute ce qui est arrivé à Kobayashi, et il suffit juste que le mec à la sucette il court dans sa tête voilà, il suffit juste qu'il court dans sa tête, qu'il dise voilà, à force de faire des tests, il sait très bien qu'au bout de 5 secondes il lève et que par réflexe il commence à lever, il a pas regardé les bras, je suis même pas sûr que les mecs aujourd'hui regardent les bras, quoi. C'est vraiment très serré dans les stands maintenant. Mais je me sens qu'on l'avait dit d'ailleurs quand ils avaient annoncé la fin des changements de pneus. Je crois d'ailleurs que c'est Enzo qui l'avait dit que
que ça allait être
que les problèmes allaient on allait revoir plus d'incidents, etc.
D'ailleurs, heureusement, ils s'en sont rendu compte tout de suite, hein, parce que il a pris la montée, il s'est arrêté tout de suite.
Bah, la roue est partie, enfin.
Elle sortait, ouais.
Alors, ce qui est drôle, c'est que, on l'a vu quand il était en haut. Lorsqu'on le voit apparaître, on le voit en haut quand il s'arrête. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un problème technique et tout ça? Et en fait, c'est après, sur le replay, qu'on le voit dans la montée avec la roue qui commence à se barrer, mais à un genre de 20 cm parce qu'elle est pas fixée.
Alors, à savoir qu'ils ont quand même pris 5 000 $ d'amende.
Bah, Sauber, c'est 25 000, hein.
Oui, mais Sauber, c'est parce qu'ils ont dégommé du matériel de Force India.
Ouais. On va passer à la 6e place. Par un pilote allemand. Non, ce n'est pas Sutil. Ce n'est pas Vettel.
Mais pourquoi vous l'avez mis, vous, Button? Ça, je suis curieux.
Bah, parce que, justement, moi, je lui ai donné combien de points? Je lui ai donné, voilà, 8 points, équivalent d'une 6e place. Parce que, comme t'as dit, je pense que s'il avait pas eu ce problème, parce que c'est pas de sa faute.
Oui, non, non.
C'est pas de sa faute. Voilà, il aurait pu être peut-être 6e, 5e, peut-être pas plus haut, mais voilà. Il aurait dû avoir ces points-là, je pense. Et voilà, c'est un incident, il est complètement innocent, donc j'ai pas eu envie de le sanctionner, en fait.
Bah, en plus, il était en train de revenir sur les autres en même temps, hein, quand il a eu son problème. Il était en train de revenir sur Hamilton, Vettel, Weber.
Ouais.
Moi, c'est pour ça que j'ai mis les points. Bon, après, en même temps, j'ai complètement oublié...
On laisse la surprise pour plus tard.
On va voir qui t'as oublié, toi. Tu m'inquiètes pour toi.
Donc, Alex,
je l'ai fait dans la précipitation, moi aussi.
Oui, oui. On en rediscutera.
À la 6e place, un pilote qui s'est quand même bien distingué ce week-end, c'est Schumacher, qui fait une belle course.
Oui. Et qui est victime de la bêtise de la FIA.
Alors, lui-même a dit qu'il était responsable de l'accident.
J'ai entendu aussi qu'il avait dit que c'était à cause du DRS, dont on a autorisé l'activation au 6e tour, alors que la piste était humide, et lui sort au 9e tour.
Et qu'ils étaient en intermédiaire.
Voilà. Et on sort le DRS, et au moment où on sort le DRS, tout d'un coup, à la fin de la portion DRS, il y a plein de voitures qui se mettent à élargir au maximum la trajectoire, en fait, à se rater au freinage, parce qu'ils ont pas leur repère. Je me rappelle de l'image des deux Toro Rosso autour de la voiture de Petrov. Il y a Buemi qui arrive en activant son DRS, sauf qu'il est, quand il relâche, il y a tout d'un coup, plus d'appui que prévu. Et donc, il a la voiture qui glisse. Il arrive à maintenir sa position, je sais pas comment, devant Petrov. Et pendant 3 tours, honnêtement, jusqu'à l'accident de Schumacher, on n'arrête pas de voir les voitures à cet endroit-là qui glissent vers l'extérieur. Et je pense que c'est ce qu'aurait expliqué Schumacher, que le DRS l'avait déstabilisé. Et je pense qu'effectivement, il a mal estimé, trompé par son DRS.
Apparemment, c'est ce qu'il aurait dit, que justement, voilà, il aurait mal anticipé ça et que, voilà, ça expliquait l'accrochage, que finalement, bah, la pénalité était peut-être méritée.
Et le truc en plus, c'est que, alors je crois que juste devant, il y a Kobayashi qui lui-même active son DRS. Donc, il lui aussi part légèrement, à l'extérieur, enfin, glisse légèrement à l'extérieur dans le virage. Donc, du coup, peut-être que Schumacher pense qu'il y a de la place pour passer. Schumacher, il pense tout le temps qu'il y a de la place pour passer. Peut-être que Schumacher pense qu'il y a de la place pour passer.
Mais malgré tout, il pète son avant et il a quand même le nez, entre guillemets, de nouveau.
Ouais, il l'avait dit avant.
Oui, déjà, voilà. On a eu l'extrait audio où il dit, voilà, dans 2 tours, on pourra peut-être mettre les slicks. Et il en profite, justement, puisqu'il est obligé de changer son avant pour mettre les slicks. Et... bah c'est efficace, quoi, sur le coup, parce que je crois qu'il remonte
à 2 secondes par tour.
Ah ouais, à 2 secondes par tour, très très impressionnant. Alors après, il repère à cause de sa pénalité.
C'est lui qui lance
et après, et après sa pénalité, il remonte de nouveau. C'est quand même très très impressionnant. Parce qu'il finit dans les points.
Et pas tellement de points. Quand tu retires les 30 secondes que lui coûte le stop and go, quand tu retires le temps que lui a coûté son changement de museau, t'arrives facilement à un écart qui n'est pas si loin que ça de Rosberg.
Peut-être même moins que ça. Il y a que 17 secondes. Hein.
Ouais, voilà. Donc quand tu vois.
Donc peut-être même non seulement devant Rosberg, mais peut-être pas très loin de Massa. Non, c'est dommage.
Si, quand même, presque 17 secondes.
20 secondes, hein, facile, mais.
Il aurait peut-être attaqué, ouais.
Voilà. Schumi, donc, qui marque 185 points. Déjà, moi, je l'ai mis 8e, et Antoine aussi l'a mis 7e.
Salut Antoine.
Oui.
Par contre, Shinji, c'est pas bien.
Bah, une place en dessous.
Ah bah, c'est pas bien quand même.
C'est pour mettre Perez.
Ouais, bah, c'est pas bien non plus. Parce que moi aussi, j'ai mis Perez.
Et en même temps, c'est vrai que je suis décalé, moi, j'ai oublié personne.
Non, c'est que toi, t'as rajouté quelqu'un du
titre. Non, moi, j'ai oublié quelqu'un, vraiment. J'avoue. Mais Dino, il va rire, je crois.
On va donc passer à la cinquième place. J'espère, Dino, que tu vas être plus loquace. Parce que c'est quand même un pilote Ferrari. Alors non, c'est pas Fernando Alonso. C'est Felipe Massa.
Qui marque 214 points.
Ouais. Que j'ai mis cinquième, que tu as mis cinquième, qu'Antoine a même quatrième.
Oui.
Bah, Antoine, absolument. Qu'est-ce qui t'arrive?
Ah bah oui.
J'ai oublié quelqu'un.
Ah, l'affaire se corse. Ça se précise.
Non, Massa, vous l'avez trouvé comment?
De retour à un meilleur niveau qu'avant.
Bah, on parlait, ça fait même 2-3 semaines qu'on parle de cette dynamique qu'a Massa. Bah, ça continue, finalement.
Et il s'est battu jusqu'au bout.
Ouais, oui.
Et il est allé le chercher, hein. Mm. Ah, pour aller le chercher, il est allé le chercher.
Mais après, ils se font pas la gueule, hein.
Ah non, ouais. Il y a voilà. Pas de polémique derrière, hein.
Voilà, il y a pas de polémique. Alors que ça a été chaud, mais voilà.
Honnêtement, il y aurait pu avoir de quoi, porter réclamation, aller voir les commissaires, et puis, non, il y a vraiment pas eu de polémique. Voilà, il y a Hamilton. Mais c'est dans le dernier virage, ça se prend, quoi.
Oui, voilà, c'est ce que même Massa doit se dire. Il se dit qu'il aurait fait la même chose, tout simplement.
Et c'est ça, le truc, c'est qu'en plus, on a Massa qui tente une attaque, un peu venue de, d'on ne sait où, surtout lui qui est pas habitué à attaquer, enfin, je suis pas sûr qu'il avait forcément la préparation dans sa tête prête pour pouvoir attaquer en étant sûr que ça passe. Et on a du coup aussi Hamilton qui se met à défendre comme il, voilà, c'est Hamilton, il se laisse pas passer facilement. Donc on a les deux qui sont vraiment à 100%. Ça se comprend, ils sont galvanisés, ils sont à quoi? C'est le dernier freinage, c'est le dernier virage. Tu joues tout à cet endroit-là. Ils sont pas foutus dehors. C'est voilà, il y en a un qui attaque, qui fait une attaque suicidaire, l'autre qui fait une défense suicidaire. Forcément, il y a de la tôle qui tombe. Mais c'est vrai qu'ils ont tous les deux dit que il y avait pas de raison de polémiquer derrière. Surtout après leur incident à Monaco.
Oui, enfin après ils ont un lourd passé quand même avec 2008.
Ouais, mais en 2008, j'ai pas vraiment souvenir qu'en 2008, il y a eu des épisodes...
Ah non, je parle juste du Grand Prix du Brésil.
Oui, voilà, mais ça, c'est un épisode à distance, quoi.
Ouais.
Je pense que...
Là, c'est de la confrontation directe, oui.
Mais c'est ça qui est un petit peu dommage avec les propos de Lewis à Monaco, c'est que on n'a jamais vraiment eu l'impression que c'était deux pilotes qui se détestaient au point de se faire des crasses ou quoi que ce soit, quoi. C'est deux pilotes qui sur la piste, bon, c'est aussi deux calibres totalement différents. Enfin, il y en a un qui est... Il y a un attaquant qui lâche rien. Massa, il est peut-être un petit peu plus mollasson et un petit peu plus. On a toujours su que Massa, quand il démarre en pôle, il est quasiment imbattable. Par contre, quand c'est dans le peloton, c'est un peu plus difficile. Il y a encore eu des passades ce week-end où il fait un peu dépasser comme un bleu. Mais
bon. Ah, et Massa a vécu une expérience traumatisante à Silverstone.
Oui.
C'est quand même le seul pilote qui a fait du patinage artistique à Silverstone, alors. Et en même temps, ça l'aide à rester quand même dans son baquet pour l'an prochain.
Oui, vu que personne n'en veut, pour le moment, de s'en baquer.
Oui.
Ah, Bianchi, il le voudrait bien.
Oui.
Mais Bianchi, il a autre chose à penser. Hein.
Oui, pour le moment, il faudra peut-être qu'il se concentre un peu plus sur son championnat.
Il a 20 points de retard.
Donc Massa qui a marqué 274 points au total. Je vais passer à la quatrième place.
Juste Antoine, si tu peux arrêter de faire genou avec ton truc à billes, parce que ça va être une galère à couper au montage. J'ai l'impression d'avoir un chat comme invité, il fait genou avec sa boule à billes.
Allez, fais miaou.
C'est ce que j'avais demandé. Merci Antoine, c'est gentil.
Donc on va passer à la quatrième. Alors... Coucher. Avec Mark Webber qui est quatrième avec 378 points.
Il y a une marche.
Oui, il y a une marche, bonne marche. Alors, nous l'avons mis quatrième, hein, toi et moi. Et Antoine, eh bien tu sais quoi?
Oui.
Il l'a mis troisième.
Merde, ça commence à m'inquiéter un petit peu là. Là, j'ai deux choses sur trois de m'énerver.
Tu peux?
Non, Webber. Bon, déjà il y a.
Alors, bah c'est Antoine qui est mieux classé. Hein.
Il fait pas un départ catastrophique non plus, mais.
Bah c'est la ligne qui part mal en fait.
Mm. Ouais, encore que. On n'a pas vu la vue intérieure. Moi j'aurais aimé voir sa vue intérieure à Webber.
Non mais même dès le départ de toute façon.
Moi je voudrais pas voir à l'intérieur de Webber. Hein.
Mais même dès le départ, on voit bien sur la caméra de Vettel que avant même que le DRS soit activable, je crois que c'est 100 km/h, avant même que le DRS soit activable, il y a déjà Vettel qui est à côté de lui, donc il y a vraiment une merde au démarrage en fait. Mais de toute façon, c'est toute la ligne qui a eu du mal à démarrer, quoi. Parce que même Alonso fait pas un départ top.
Et donc Antoine?
Bah Weber, il fait quand même belle course. À la fin, il attaque. Bon, il défie Christian Horner. Attention.
Ah oui.
Pour renouveler son contrat.
Bon, c'est un peu de posture depuis deux ans.
Oui, mais là, il veut montrer qu'il n'est plus un numéro 2. Même si c'est marqué sur sa voiture, il l'intègre pas, en fait.
Oui.
Consigne de course, connaît pas.
Et c'est ça le truc, c'est que comme Vettel ne demande pas les écarts, lui il est persuadé qu'il est juste derrière Vettel. Il n'est pas au courant non plus des écarts. Lui il arrive et dit vous faites tout comme Vettel. Personne lui dit qu'il a déjà 80 points de retard.
C'est en fait Weber il se croit 2 points de Vettel, la moindre course peut faire gagner.
Bah, et ouais.
Bah oui.
Non, non, tu peux le mettre 3 fois en l'air, tu peux gagner 3 fois, tu seras quand même derrière mon gars. C'est pas de bol.
Non, puis c'est bien parce que finalement on a eu une fin de course avec quand même 2 duels, c'était sympa. Tu vois, entre les Red Bull, même si on s'y attendait pas forcément, et Hamilton Massa, c'était bien quand même la fin de course. Ça a changé.
Alors je ne ferai pas plaisir à Globen qui a supposé ce que j'allais dire sur Vettel, mais c'est quand même assez étonnant la manière dont Vettel remonte sur Vettel en fin de course. Alors c'est vrai que Vettel a beaucoup anticipé son dernier arrêt. Donc peut-être qu'il avait des pneus, qu'il avait atteint le point de rupture et qui fait que vraiment
c'est. Oui, comme Hamilton. Est-ce que comme Hamilton, alors peut-être pas sur l'essence, ouais, mais sur les pneus.
Bah, c'est vrai que sur la fin quand même, il remonte très très fort Weber.
Ou bien est-ce que justement est-ce qu'il se disait pas de toute façon Weber il va pas m'attaquer et donc voilà il y allait mollo.
Ça c'est toi qui le dis, Shinji. Moi je n'ai rien dit.
Il y en a qui disent qu'il avait des problèmes de casse.
Voilà, sans penser à des consignes de course, mais voilà il s'est peut-être dit bon bah voilà je suis deuxième, lui il est troisième, mais il reste plus beaucoup de tours.
Donc tu voudrais dire Shinji que peut-être que Vettel avait peut-être un petit peu assuré.
Voilà.
On est bien d'accord. Donc, Globen, tu es bien d'accord? Je n'ai rien dit. C'est Shinji qui l'a dit. Moi, je fais juste écouter Shinji. Je n'ai rien dit.
Oh là là.
Mais Shinji, je te comprends. Tu as tout mon soutien.
Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir eu de soucis particuliers.
Alors, la grande question, c'est est-ce qu'il doit y avoir polémique?
Bah, pas entre Weber et Vettel. Plutôt entre Christian et Marc. Il va falloir s'expliquer.
Christian et Marc, tous les deux sont très fâchés. Christian et Marc ne feront pas des bébés. Ta 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 ta. D'ailleurs, c'est plutôt Marc et Christian, ça serait très drôle ça. Marc et Christian. Ah ouais, là, ça fait une vraie chanson.
Non, s'il te plaît.
Oui,
le temps dehors, oui. Pense au temps. Pense au temps. Tu te dis, si tu veux un Grand Prix sous l'Allemagne, enfin, sous la pluie...
Non, je veux pas avoir l'Allemagne au-dessus.
Sous l'Allemagne, oh là là.
Ouais, bon, si tu veux voir un Grand Prix d'Allemagne sous la pluie, tu continues à chanter.
Allez, on va passer au podium.
Comment ils zappent Weber, comment ils zappent la police.
Bah, vous voulez dire quoi sur Weber? Bah,
est-ce qu'il y a une polémique sur le fait, les consignes, est-ce que...
Alors, je vous rappelle juste un truc, c'est que les consignes ne sont plus interdites par le règlement.
Oui, non, mais quand même, l'an dernier, il y a quand même un discours de Red Bull qui disait non mais nous nos pilotes on les laisse se battre jusqu'à la fin en piste etc. En tout cas c'est ce que certains sur le site rappellent.
Moi là où c'était hypocrite c'était l'an dernier, c'est-à-dire que je pense que il y avait déjà ce genre de consigne l'an dernier mais ils osaient pas le dire parce qu'ils voulaient se donner une image, regardez nous on donne pas de consigne. Puis bon voilà, Red Bull est devenue une grande équipe qui joue le titre. Bon après est-ce que c'était franchement utile de mettre des consigne vu l'avance qu'avait-elle. Alors ils disent oui, on a risqué quand même de perdre 33 points. Alors, attendez Coco, vous en avez plus de 60 d'avance, c'est bon quoi.
Ouais mais ils sont quand même mi-saison. Hein.
Ouais.
C'est là où je suis d'accord avec tes arguments qui ont été avancés sur le fait que la comparaison avec les consignes de Ferrari, sur le fait que la finalité finalement est la même, c'est-à-dire d'interagir avec le résultat de la course, le résultat du sport, et que c'est tout aussi méprisable de demander à un pilote de garder sa position que demander à un autre de laisser passer un autre pilote. Je suis d'accord. Maintenant, on peut aussi comprendre la position de l'équipe. Moi, je comprenais déjà la position de Ferrari l'an dernier, donc je comprends encore mieux celle de Red Bull cette année, qui se dit dans les 3 derniers tours, ça sert à rien que le pilote aille au casse-pipe. Voilà, comme le dit Vettel, le mec devant, il est trop loin, le mec derrière, il est suffisamment loin. On est juste tous les deux. Surtout qu'en plus, il y a un passif l'année dernière en Turquie où ils se sont rentrés dedans. Autant éviter les problèmes. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a vu qu'il s'était battu, puisque comment s'appelle Vettel, enfin Weber n'a pas écouté les consignes, donc c'est qu'ils se sont battus en piste et que ça il n'y a pas eu de problème.
Après battu ça a été léger, je veux dire ça a pas été
bah disons que c'est
on a connu mieux quand même comme opposition hein.
Après, il a peut-être fallu qu'il lui rentre dedans
que de souvenirs. On passe au podium.
Oui, je commence à avoir peur.
On va passer à l'autre pilote Red Bull, car oui il a
non.
Mis troisième, je l'ai mis deuxième, Dino tu l'as mis troisième et tu sais quoi,
oui
et ben Antoine
oui.
Et ben il l'a mis deuxième aussi.
Je commence à avoir vraiment peur là.
Ouais, bah...
Parce qu'il y a deux pilotes qui sont devant normalement, qui se sont bien illustrés quand même ce week-end, et je commence à me dire, mais lequel il a oublié? On va vite passer sur Vettel, Shinji, hein. Parce que là, mon cœur va pas tenir.
Moi, si, il va tenir.
Mais pourquoi il prend un accent italien?
Vettel qui perd pas grand chose, hein.
T'as hyper 10 secondes dans les stands, quoi.
Voilà, non, mais ouais, très très mauvais au stand. D'ailleurs, on n'a pas vraiment l'explication de pourquoi.
C'est le lève-voiture, en fait. C'est-à-dire que quand ils ont levé la voiture à l'arrière, apparemment, il y a le lève-voiture qui a dû casser en tournant le genre, mais il y a eu un problème, ce qui fait que la voiture allait retomber. Donc, ouais, du coup, ils n'avaient pas fixé les roues, donc il a fallu qu'ils prennent un deuxième lève-voiture pour relever la voiture, revisser les roues et rebaisser. Tout ça, ça a pris 7 secondes.
À noter que Vettel a marqué 410 points.
C'est pas faux.
Bah, dans notre classement. Hein.
Et ouais.
Il les a pas encore, les 410 points.
Non.
Pas encore.
Il va les avoir.
Est-ce que c'est possible?
Tu peux marquer 475 points cette année.
Ah,
il a perdu que 21 points pour l'instant. Ah,
ça va être dur quand même.
Ça va être dur.
L'objectif, c'est les 400 points, on va dire.
Ouais. Non, rien à dire sur Vettel. Le simple fait qu'il est perdu, c'est quand même. Enfin,
c'est du Vettel pur jus, quoi. Une fois qu'il est devant, bah, il a pris sa petite avance. Encore une fois, il a semblé perdre son avance à un moment donné à la fin de son premier relais. Oui, c'est la fin de son premier relais, je crois. Où Weber revient très fort. Puis après, on n'a pas vraiment l'impression non plus qu'il a, une fois qu'il a dépassé Hamilton, on n'a pas vraiment l'impression qu'il soit allé chercher Alonso.
Mais c'est la preuve que faut pas perdre espoir pour les autres équipes que sont McLaren et Ferrari. Faut y aller pour être pas très loin des Red Bull. Et finalement, voilà, le plus grand ennemi de Red Bull, c'est Red Bull. Parce que finalement, c'est sur une erreur, on peut dire qu'il perd la course.
Bah, c'est une erreur des mécanos, que c'est même pas une...
Oui.
De toute façon, tu regardes.
C'est même pas une erreur, en fait. C'est
sur trois fois où il finit pas premier, c'est deux fois à cause de son stand ou de la stratégie, quoi.
Bah, en Chine, c'est la stratégie, clairement.
Au Canada, c'est de sa faute.
Canada, c'est de sa faute. Et là, c'est même pas le stand. Enfin, je pense que c'est surtout un coup du sort, quoi. Ça arrive qu'un truc pète au stand.
Mais ça prouve que voilà, faut mettre la pression quand même sur cette. Que si on leur met la pression, il y a un coup à jouer. Parce que même si c'est accidentel, c'est quand même voilà. Ils savaient quand même qu'il y avait Alonso qui était juste derrière et tout ça. Vous avez quelque chose à rajouter sur Vettel?
Non.
On va passer au deuxième du classement.
Oui.
C'est Lewis Hamilton.
Oui.
Alors Antoine.
Dis-moi.
Bah, on va dire que.
Pourquoi?
Ah oui, cool, ouais.
Bah, c'est juste que sur le coup, j'ai pas du tout pensé à lui. Il a fait un bon départ, d'accord. Ouais, il retrouve les performances de la voiture sur le sec et après il fait rien. C'est peut-être pour ça qu'il m'a pas marqué, quoi. Il fait rien de transcendant à part dans les derniers mètres.
Canté, Dino, hein, tu l'as mis deuxième et moi je l'ai mis troisième. Avec
pourquoi tu donnes les classements? Je suis dit, merde, c'est une crédibilité qui tombe en lambeaux maintenant. C'est déjà pas énorme.
Il a marqué 463 points.
Moi, il m'a posé un vrai problème ce week-end, Lewis, dans le classement en tout cas. Parce que c'est vrai qu'il fait une superbe course.
Par rapport aux qualifs qu'il avait faites, c'est quand même pas mal.
Il gagne, je crois, 4 places dans le premier tour. Après, il remonte avec une McLaren qui semble revigorée. Il remonte, il fait des beaux dépassements. Pas des dépassements extraordinaires. Le dépassement sur Alonso, il n'est pas extraordinaire. Il est opportuniste, des dépassements propres. Il a été propre, enfin, en dehors de la fin. Mais bon, ça, à la fin, c'est un peu des circonstances extraordinaires qui se comprennent. Mais bon, il a été propre. Mais je me suis dit quand même, peut-être qu'il attaque un petit peu trop. Et je me demande, alors, j'ai pas réussi à trouver la réponse, mais je me demande si le fait qu'on lui demande à la fin de d'économiser un peu du carburant, oui. Parce que je me demande si c'est pas dû au fait qu'il a peut-être un petit peu trop fait la course en début, et que chez McLaren on fait tellement les consommations au micromètre, au microgramme de carburant près, que bah forcément dès qu'il attaque un petit peu plus que prévu ou dès que les conditions changent un petit peu plus, bah ça se paye en fin de course et ils sont ric-rac. Donc est-ce que c'est à McLaren de changer ou est-ce que c'est à Hamilton d'avoir une plus grande intelligence de course peut-être, ou alors c'est à McLaren de s'adapter, de dire voilà, on a un pilote qui attaque, bah faisons-le partir avec un peu plus d'essence. Enfin, je sais pas trop à qui incombe la faute en fait. Mais sinon il fait une très belle course.
Non, ouais. Mais c'est bien, parce que après tout ce qu'on a dit sur lui les dernières semaines, justement, de le voir agressif, mais dans le bon sens du terme, tel qu'on aime bien le voir, quoi, vraiment à l'attaque. Bon, moi, ça m'a surpris quand même le coup de l'essence, parce que forcément, avec son style, on se doute bien qu'il doit consommer un petit peu plus quand même que les autres. C'est con quoi.
Ou alors c'est parce que la voiture vraiment ils ont été surpris qu'ils n'ont pas fait assez de roulage donc ils n'ont pas pu faire de test.
Après les conditions étaient un peu spéciales parce que même si c'était humide au début, c'était humide mais il pleuvait pas non plus, c'était particulier.
Donc voilà, c'est pour ça que je dis je sais pas trop à qui en incomber la faute. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit je vais pas forcément bien le mettre dans le classement parce que ça qu'il attaque trop et résultat ça se paye à la fin. Puis en même temps en regardant une deuxième fois la course aujourd'hui, je me dis mais est-ce que c'est vraiment lui le fautif ou est-ce qu'il y a pas les circonstances qui expliquent une erreur de l'écurie, voilà.
On va passer au premier du classement.
Qu'Antoine n'a pas oublié.
Non, on l'a tous les trois mis premier, forcément. Il a marqué 608 points. Italia. C'est bon, t'as fini?
Tu veux un fusil ou je sors le mien?
Donc, Alonso. Au moins, Ferrari pourra dire ils ont pas fou. Voilà, ils auront au moins gagné une course cette année.
Ils ont sauvé la saison.
Voilà.
C'est ce que.
Et puis pour le coup, y a rien à redire quoi sur le. Voilà, c'est une belle victoire. Y a pas de souci.
Ah, y en a certains qui ont des complots. Voilà.
Ah, non. Bon.
Non, c'est voilà, c'est.
Alors bon, y a c'est vrai que bon, y a le problème de Red Bull, mais comme tu l'as dit, la Ferrari quand même était bien fringante et à certains moments même avant l'arrêt au stand, elle était vachement rapide.
Cross 19 secondes. Je me demande si c'est pas l'un des plus gros écarts de la saison. C'est vrai que c'est quand même relativement énorme, 19 secondes, surtout sur,
je vais vérifier.
Surtout sur une demi-course, même pas un tiers de course.
En même temps, ils ont pas eu à mettre de pneus durs.
Ça, c'est
non,
clairement.
C'est pas le plus gros écart. Pour l'instant, j'ai en Australie 22 secondes Vettel sur Hamilton.
Ouais, mais Hamilton avait eu un problème.
C'est le deuxième plus grand.
Ouais, parce qu'en règle générale, c'est moins de 10 secondes, hein.
Mais c'est vrai que Ferrari, ils ont, alors c'est aussi ce qui est dommage, c'est que, j'étais aussi un petit peu embêté parce que cette victoire, elle intervient quand même dans un contexte qui est très particulier. Et donc, du coup, on sait pas vraiment si c'est dû aux innovations qu'ils ont apportées parce qu'ils ont apporté un tout nouvel écran arrière.
Ils ont apporté des choses, ouais.
Ils ont revu le diffuseur pour le maximiser tout en essayant de respecter la réglementation et compagnie. Ils ont vraiment apporté plein de trucs.
On remarque quand même que souvent, c'est une période de l'année où la Ferrari...
Déjà l'an dernier.
L'an dernier. On pourrait citer aussi...
Et pour le moment, c'est le...
2007.
Pour le moment,
2007, pareil.
En dehors de Bahreïn, c'est le même début de saison que l'année dernière pour Ferrari. Sauf que l'an dernier, il y avait la fiabilité de Red Bull qui faisait qu'ils étaient plus proches et que ils avaient gagné une course et que donc du coup l'écart était moins grand au championnat.
Ils arrivent à réussir leur voiture du premier coup maintenant.
Oui.
C'est ça le problème.
Mais c'est ce que dit Massa. Il dit aussi ce qui est important, c'est de continuer à dire qu'ils vont pas arrêter la voiture de cette année parce qu'il faut la continuer à la développer. Vu que fondamentalement, c'est comme cette année, il n'y a pas de gros changements pour l'année prochaine. Il y en a même quasiment aucun pour l'année prochaine. Même, voilà, en dehors du diffuseur, ça ils savaient faire avant, donc ils vont savoir refaire. Voilà, donc ça va être finalement qu'une grosse mise à jour où la Ferrari aura peut-être plus de temps pour pouvoir travailler sur l'aérodynamique, parce qu'on voit bien que la base de la voiture n'est pas mauvaise. Enfin, mécaniquement, c'est pas une mauvaise voiture. Mais c'est vrai que un peu comme l'an dernier, on sent vraiment que toutes les innovations qu'ils apportent
faut qu'ils bétonnent la base cette année avec la voiture de cette année pour pouvoir être plus innovants dès le début de l'année prochaine.
C'est pour ça que c'est bien finalement.
Ils n'ont pas été cette année.
Aussitôt.
Ça les libère d'un point, hein, ça c'est clair.
On sait très bien que tout d'un coup gagner dans une saison, ça calme un petit peu la presse. D'ailleurs, ce que je tiens franchement à saluer ce qu'a déclaré Stefano Domenicali après la course, puisqu'il a dit que cette victoire, c'était la victoire de tous ceux qui travaillent à Maranello, tous ceux qui travaillent sur la piste, mais aussi de tous ceux qui ont travaillé avec l'équipe, en pensant bien évidemment à Aldo Costa qui a été débarqué il y a quelques semaines. Et donc indirectement, il a dit aussi que voilà, cette victoire, il a lui dédié aussi, comme à tous ceux qui travaillent chez Maranello. Donc ça va peut-être leur fournir maintenant un contexte un peu plus calme pour pouvoir finir la saison avec pourquoi pas une ou deux victoires en plus, en profitant. On l'a vu ce week-end, hein, Vettel il a aussi commencé à faire un peu l'épicier. On sent que il a pas non plus trop attaqué, il est pas allé chercher Alonso, donc il commence déjà à assurer la deuxième place, il veut faire que ça. Et donc il y aura forcément des opportunités en fin de saison. Du coup, ça les libère pour développer la voiture 2000.
Je pense que la Ferrari peut vraiment se donner comme objectif de rattraper McLaren. C'est pas impossible. Bon, il y a 50 points, mais si la Ferrari a vraiment progressé comme on l'a vu, ça peut le faire. Hein. Et puis c'est vrai qu'en termes de victoire, je pense notamment forcément au Grand Prix d'Italie, surtout cette année. Faut se rappeler quand même du nom de la voiture cette année.
Oui.
Voilà.
Tu veux dire que Red Bull va laisser gagner Ferrari, McLaren aussi d'ailleurs.
On peut peut-être pas leur laisser gagner, mais par contre, je les vois bien chez Ferrari se dire « Bon, on pourra pas jouer le titre ». Mais par contre, on fait tout pour gagner à Monza au mois de septembre.
Là clairement, pour Ferrari, ça va dépendre aussi des tas de formes de McLaren dans les semaines à venir.
Oui.
Mais il y a Spa, il y a l'Italie. Oui. On peut très bien penser que l'Italie, ça sera pas forcément un circuit pour la Red Bull, qui font comme l'an dernier, ils vont sans doute pas jouer la victoire. Ça jouera sans doute plus, encore une fois, entre Ferrari et McLaren, qui ont des moteurs plus puissants, qui ont des voitures moins d'appui, donc etc. Donc ouais, il y a d'autres opportunités de victoire sur la fin de saison, mais pas de quoi chambouler le championnat. D'ailleurs, ils y pensent pas apparemment.
Non. Voilà, peut-être piquer la deuxième place à McLaren, ouais, ça c'est possible.
Ça c'est possible. Ouais.
Antoine, tu es là ?
Ben oui, je suis là, mais tu faisais un monologue, donc je t'ai laissé parler.
Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur Alonso ?
Bah, son gros point fort après, c'est de rester au contact de Red Bull et d'avoir pu profiter comme ça. Il est resté au contact, c'est tout ce qu'il a fait dans la course. Pour moi, c'est tout ce qu'il a fait. Il est resté au contact.
Et il a atteint le moment où il fallait, quoi.
Ça lui a permis de profiter quand il a pu, quand il y a eu le problème de Red Bull. Je suis pas sûr que Vettel l'aurait si facilement laissé passer s'il avait été juste derrière.
Ah ouais, s'il repart derrière, c'est plus la même histoire. Ça, c'est-à-dire
que je suis pas d'accord avec ceux qui disent que Alonso doit sa victoire qu'à l'erreur de stand de Red Bull. Je pense qu'il pouvait la jouer, la victoire. Maintenant, c'est une autre histoire. Ça aurait été quand même très difficile de face à Vettel.
Alors, au classement du SAV, Vettel est toujours devant, 175 points. Mais désormais, c'est Alonso qui le suit avec 120 points. Et à noter que derrière, on a en fait, même avec Alonso, il y a un paquet, on va dire, puisque Button en a 118, Weber en a 115 et Hamilton 114. Chez les constructeurs, bon bah Red Bull est devant, 204. Attends. Oui, c'est ça. 200, parce que je recalcule. Red Bull, donc, a 290 points devant McLaren, 232, et Ferrari, 170 points. Dans l'autre classement, Vettel est devant, 204 points, devant désormais Mark Webber, 124, donc il a 80 points d'avance. À noter que son avance n'a pas beaucoup, il a gagné 3 points d'avance.
Mais il a rien quand même des points.
Mais c'est normal parce que j'ai calculé depuis le début de la saison l'évolution de son avance, hein. Et en fait, il fait l'accordéon. C'est-à-dire que une course, il gagne beaucoup d'avance et la course d'après, il en gagne très peu. Alors, en Australie, il gagne donc 7 points d'avance, hein, sur le deuxième, forcément. En Malaisie, il gagne 17 points d'avance. En Chine, par contre, il en perd 3. C'est la seule fois où son avance s'est réduite de 3 points, hein. Puis en Turquie, il en regagne 13, en Espagne 7, à Monaco 17, au Canada 2, en Europe 17, et donc en Grande-Bretagne 3. Donc s'il suit cette logique, normalement, en Allemagne, il va foutre 15 à 20 points devant Weber.
Il n'a jamais gagné d'ailleurs en Allemagne, je crois. Non, jamais.
Si Vettel gagne en Allemagne, alors là...
Ah ouais, arrête. La folie.
À noter que chez les constructeurs, donc Red Bull est devant à 328 points, devant McLaren 218 et Ferrari 164. Et Mercedes est donc passé devant Renault, enfin devant Lotus Renault, 68 points contre 65. Donc on le rappelle, hein, Vettel sera toujours en tête, au moins toujours la Belgique, hein, parce qu'il a comme il a pas gagné beaucoup de points d'avance.
Non, parce que par contre au constructeur, ce qui est étonnant, c'est de voir Ferrari. Et je crois que Ferrari a exactement la moitié des points de Red Bull.
Ouais. On va passer au fait marquant. Oh. Donc, souvenez-vous, la semaine lors de la dernière.
Oh, je sens pas les résultats.
Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Europe 2011? Vous avez été 32 à voter, on vous remercie. D'ailleurs, on remercie aussi tous ceux qui ont voté pour le top 10, sauf ceux qui ont donné 101 points à Grosjean, hein, qui ont fumé du crack, hein, rappelons-le. Vous avez été 7 et donc 21,88% à choisir le DRS et le Kers qui ne font pas de merveille à Valence. Donc ça, c'était mon choix.
Ça se sent la formule.
Ouais. Est arrivé deuxième Alonso et Hamilton qui ne se font plus d'illusions.
Oh merde.
9 votes, 28%. Et donc, avec 16 votes, 50%, l'impression de manque d'action.
Écoute-moi,
et donc finalement, le fait marquant du Grand Prix d'Europe, c'est qu'il n'y avait pas de fait marquant.
Ouais.
Alors...
Shinji, t'es mon meilleur ami. Laisse-moi ça au moins. C'est Ferrari, j'ai pas beaucoup.
Laisse tomber.
S'il te plaît, Shinji, je suis ton meilleur ami. On se connaît depuis 10 ans, depuis qu'on est tout petit à la fac, quoi. Non, Shinji,
tu sais bien que dans une compétition, il n'y a pas d'amis.
Ah, vas-y.
Je vais choisir la première victoire de Ferrari cette saison.
Le problème de Vettel au stand.
Tu fais chier.
Moi aussi, je t'aime, Antoine.
La mauvaise organisation de la FIA tout le long du week-end.
Merde! Juste con, Dino, merde! Ah, je m'en veux! C'est pas grave, je serai dernier. C'est pas grave.
Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne 2011? Vous aurez le choix entre la première victoire de Ferrari cette saison, le problème de Vettel au stand, ou bien la mauvaise organisation de la FIA pendant tout le week-end. Qu'on passe au concours.
Alors, la question concours d'il y a 15 jours nous était proposée par Zilex et était la suivante. Sans compter 2011 et depuis le premier championnat du monde de Formule 1, combien de grands prix disputés à Silverstone se sont déroulés sous la pluie? Est-ce que vous avez la réponse? Parce qu'il y en a un d'entre vous qui a cherché.
Moi j'ai regardé. Il me semble que j'en ai compté 7.
Oui.
6 ou 7.
Alors c'est 7 grands prix disputés à Silverstone selon StatF1. D'accord? On a pris comme référence les sources de StatF1. Donc il y a effectivement au total sur les 62 grands prix de Grande-Bretagne, je crois, nous en avons eu 9 seulement qui se sont disputés sous la pluie. Donc c'est là où vraiment la pluie est intervenue pas pendant la course. Celui de ce week-end, par exemple, ne compte pas puisque la pluie est intervenue avant. Et donc nous avons Silverstone à 7 reprises en 53, 54, 75, 88, 98, 2002 et 2008. La victoire majestueuse, magistrale d'Hamilton.
Et le patinage artistique de Massa.
Voilà. Nous avons eu un grand prix disputé à Entry en 1961 et un grand prix disputé à Brands Hatch en 66, il me semble.
Et on peut noter aussi Donington, qui n'était pas un grand prix de Grande-Bretagne, mais d'Europe, mais qui était sous la pluie.
Et donc, nous avons reçu 2 réponses et donc 2 questions, Shinji.
Waouh.
Je te laisse choisir. Citer 2 particularités du circuit d'Avus qui a accueilli le Grand Prix d'Allemagne en 1959. Donc là, l'auteur de la question nous a dit qu'il y avait en fait plein de particularités. Donc on va en demander 2. Si jamais cette question est choisie. Deuxième question. Pour quelle raison le Grand Prix d'Allemagne 1955 ne s'est-il pas déroulé?
Sachant ce qu'est l'Avus, j'ai envie de poser la question sur l'Avus.
Ah.
Alors, l'Avus signifie Automobile Verkehrs und Übungsstraße.
Oui.
Voilà. Donc si vous parlez allemand, peut-être vous avez eu un indice. Je ne sais pas, je parle pas allemand.
Et donc, Shinji, tu viens de désigner un nouveau vainqueur.
Ah, cool.
Et tu viens de faire pour la 3e ou 4e fois consécutivement une malheureuse. Puisque c'est Maël qui perd, malheureusement.
D'accord.
Et, oh, Shinji, ça se dit pas.
Mais non, mais c'est vrai, malheureusement.
Et c'est donc Gus Gus. Alors, je sais pas si c'est Gus Gus ou Gugus. On va dire Gus Gus.
Il y a un S, Dieu ?
Il y a un S. Donc, voilà. Je voudrais pas dire Gugus. Donc, c'est Gus Gus, hein, qui nous découvre apparemment, récemment et qui connaît Globen.
Ah.
Ça a été les grandes retrouvailles sur le site FanF1.
sur les commentaires.
On fait aussi mythique entre fans de Formule 1.
Copains d'avant.
Et donc, c'est Gus Gus qui nous proposait cette question et qui remporte donc, je le rappelle, l'objet du concours Top Opposition, c'est d'avoir un petit papier avec votre nom pour le tirage au sort final que nous réaliserons en vidéo, comme l'année dernière, et qui vous permettra de gagner un
qui
cadeau.
Qui sera en intérieur, on vous le dit déjà.
Oui. Et qui vous permettra de gagner quelque chose d'un montant équivalent à ce que nous a rapporté le guide du SAV. Donc voilà, on est honnête, sur le guide du SAV on fait aucun bénéfice
là pour l'instant.
Tous les bénéfices sont redonnés à votre cause. Bon moment
là, vous êtes plus sur des porte-clés là, voilà. En ce moment
vous allez pas avoir un gros cadeau. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, de bookedition.com, vous cherchez le SAV de la F1 et vous allez trouver le guide.
Ah, pas deux fois,
non. Et donc, pour répondre, je vous rappelle la marche à suivre, hein. Vous allez soit sur le site fanf1.com, dans la rubrique plus, vous prenez le formulaire de contact en choisissant bien le SAV de la F1 comme destinataire. Sinon, le plus simple, c'est de passer par la boîte du SAV, savf1@yahoo.fr, tout en minuscule, voilà, et donc de nous envoyer la réponse à la question qui est la suivante. Citer 2 particularités du circuit d'Avus qui a accueilli le Grand Prix d'Allemagne en 1959. Voilà, donc c'est à vous de chercher. Essayez de faire original, essayez de nous pondre des trucs originaux avec les sources si possible. Et donc de nous proposer une question pour le Grand Prix suivant qui sera le Grand Prix d'Autriche. Le Grand Prix de Hongrie. Ah, non, le Grand Prix de Hongrie.
Ah oui, c'est vrai. On va passer d'ailleurs justement au prochain Grand Prix.
Oui.
Donc l'Allemagne.
La choucroute, le strudel.
Attention, en Allemagne, on ne mange pas de la choucroute.
Ah non, c'est en Alsace.
C'est alsacien. Non, eux, ils mangent les trucs, le même truc, mais séparés.
Et donc, si nous allons en Allemagne, il faut vous trouver...
De bonnes raisons.
De bonnes raisons d'y aller, ou au contraire, de rester chez vous bien au chaud. Qu'as-tu choisi, Antoine ?
Les 7 bonnes raisons.
Ah.
Alors, la première raison... C'est que pour y aller vraiment, c'est juste à côté de la France. Vous allez au Grand Est, là où il fait froid, toujours, et il fait des fois beau, mais c'est juste à côté de la frontière.
C'est vrai.
Et donc, pour la deuxième bonne raison, vu qu'il fait froid, vous pourrez boire une bonne bière allemande. Une bonne occasion d'aller la boire directement à la source. Donc, troisième raison, donc c'est un circuit qu'on n'a pas vu l'année dernière. C'est le seul de la saison avec le Grand Prix d'Inde qu'on n'aura pas vu l'année dernière. Donc, pour varier un peu, on va quand même le regarder. Ça fait découvrir un nouveau circuit pour certains,
oui.
Dont je fais partie.
Mais vraiment pour ceux qui regardent la Formule 1 depuis pas longtemps.
Certes. Donc, quatrième raison, un peu plus technique, attention, c'est le retour sur les diffuseurs soufflés, donc qui vont être de retour comme à Valence. Donc, on va voir si Ferrari, c'était juste un petit coup dans le vent, et si Red Bull avait vraiment un problème là-dessus. On ne sait pas.
Les Italiens ne font jamais de petits coups dans le vent, monsieur Antoine.
Et ils font que des petits coups pourris. C'est pas
Non, c'est foot, jamais en Formule 1, c'est pas notre genre.
Donc, en parlant de Ferrari, voyons voir si c'est l'ambiance allemande qui donne envie de faire des consignes d'équipe. Attendons de voir si nous entendrons de nouveau Felipe, Fernando et Faster than you.
Oui, parce qu'on a quand même très peu de chance d'entendre Fernando, Felipe et Faster than you. Surtout qu'ils ont un passif tous les deux là-bas. Hein.
Bah oui, justement.
Bah c'est surtout que, bon, il y a le passif du Grand Prix d'Allemagne, mais il y a surtout le passif du Nürburgring.
Peut-être qu'on entendra Marc, Sébastien is faster than you.
J'ose pas croire que Red Bull donne.
Faudrait que Jack Weber soit devant.
Oui.
Oui.
Même quand il part en pôle, il est pas devant.
Donc sixième bonne raison, donc c'est un circuit, il y a quand même 7 pilotes à domicile, en comptant Nico Hülkenberg pendant les essais.
Ouais.
Donc généralement, il va y avoir de la foule, on va voir les gens hurler. Et septième raison, pourquoi se priver de regarder un Grand Prix alors que nous sommes fans de F1 ?
Ouais. Ça là, la limite d'enjeu, ça là, je dis.
Ouais.
Ça là, c'est limite carton jaune.
Eh, 5 minutes pour le faire.
Voilà,
c'est pour ça.
Tu as la clémence du jury, mais attention. Puisqu'il faut, il faut tout de suite en profiter pour te remercier, puisque on t'a demandé de venir un peu à la dernière minute.
Oui.
On avait quelqu'un d'autre de prévu et on n'a pas eu de nouvelles.
Alors sur ce, les pronos.
Déjà ?
Non, les pronos, pas les pruneaux.
Bah, du coup, ça va en chier, quoi.
Oh là là.
Voilà comment une belle vanne comme la mienne peut déraper derrière.
Ah mais c'était une vanne de merde. Hein.
C'était raffiné et tout. C'est...
Et alors,
bah, écoute, de toute façon, on va en Allemagne. Le raffinement.
C'est raciste ce que tu dis, Shiji.
Ah bon, parce que tu crois que comme tous les ans, on va pas avoir droit au sujet des campeurs allemands, fans de Schumi. Hein.
Oui, non mais ça c'est parce que TF1, ils aiment bien les clichés, mais... Il y en avait aussi en Angleterre, c'est juste qu'en Angleterre, on les cache derrière les tribunes.
Oui.
Un peu de décence. On a mis l'ego de Lewis devant, comme ça, ça cache tous les campeurs.
Alors, j'ai quand même envie de dire Vettel.
Oh, quel courage. Quoique, en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même...
Il y a des gens vachement moins courageux que moi, hein, qui ont dit que Vettel serait sans doute bien parti pour être champion du monde cette année. Jacques Villeneuve.
Ah oui, mais non, mais
qui dit ça début juillet, hein, je veux dire, voilà.
Moi je dirais que c'est quand même l'équipe féminine de football, parce que elles ont été éliminées et elles ont vraiment un sentiment de revanche. Donc je suis sûr que si elles s'y mettent à 11, elles pourront peut-être gagner la coupe. Mais il faudra courir vite ou distraire les pilotes. C'est peut-être d'ailleurs la meilleure solution, distraire les pilotes.
Sinon dans 2 semaines, si ce n'est pas Vettel, peut-être Andy Schleck.
Qui n'est pas allemand.
Non, mais qui gagnera peut-être dans 2 semaines.
Oui.
S'il tombe pas. Et toi Antoine?
J'ai Red Bull. Et avec peut-être un retour de Mercedes en 3e place, un petit coup d'éclat à domicile.
Mercedes?
En 3e place, constructeur.
Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que tu sais, ok.
Ah non, pas une Mercedes en 3e place. J'ai appris à ne plus trop rêver quand même. Hein.
J'ai peur.
Sur ce, bah, comme on l'a dit, merci Antoine de nous avoir accompagnés pendant cette émission.
Oui.
Bah, merci à vous de m'avoir accepté une fois de plus. C'était encore une fois un plaisir.
Bah écoute.
C'est bien d'avoir des roues de secours qui ont un ego tel que ça les dérange pas d'être juste des roues de secours.
Non mais c'est surtout, je t'explique.
Parce que tu n'es qu'une roue de secours. Oui, tu n'es qu'une roue de secours. C'est celui qu'on cache et qu'on vient chercher que quand on en a besoin.
C'est juste que ce soir je suis tout seul donc je me fais chier. Donc vous êtes ma roue de secours en fait.
Ah bah tu devrais te remercier alors.
Bah ouais, c'est ce que j'ai fait, merci.
Alors c'est toujours un plaisir et on en profite bien sûr pour vous rappeler hein, que vous pouvez être candidat là jusqu'à la fin de saison, à part le Grand Prix de Belgique qui est réservé à notre ami Benoît qui est belge.
Ah oui, ça a été spécial Belgique. C'est bien, on a un mois pour réviser nos blagues anti-belges.
Ouais.
Ah, je peux vous aider. J'en ai plein.
Aussi, on vous rappelle qu'on aimerait bien, mais c'est vraiment notre petite ambition, hein, d'ici la fin de saison, accueillir une fille dans le SAV. Voilà, on te promet de ne pas te faire peur.
Précisons que si tu es une fille et que tu souhaites participer, tu n'es pas physiquement à côté de nous, hein, donc tu ne risques rien.
C'est ce que je regrette depuis un moment.
Mais... Par contre, comme tout le monde, il faudra que tu envoies tes photos et tes mensurations. C'est pour régler le casque, en fait. C'est parce, voilà.
Ouais. D'ailleurs, ça a été une très mauvaise idée, hein, je trouve. Demander l'équipe nue des gars.
Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend tout le temps Antoine, en fait. On veut pas voir d'autres mecs.
Comment ça tu prends? Non, je suis pas d'accord.
Oh, Antoine, laisse-toi faire.
Je suis de mur.
Je m'appelle pas mur.
Et je ne peux pas proposer un chouette.
On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Suivant l'heure, vous nous êtes. Comme d'habitude, n'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sur FunF1. Et on se retrouve donc en Allemagne. Sur ce, on va se quitter comme d'habitude. Par ces quelques mots, j'ai plus envie de dire de poésie. Parce que...
Comment ça, plus de poésie? Mais c'est de la poésie, monsieur. Puisque cette semaine, j'ai tenté de faire original. Je n'ai pas pris un proverbe africain. J'ai pris un proverbe congolais.
Ah bon, parce que c'est pas en Afrique.
Ah, c'est en Afrique, mais c'est pas un proverbe africain. Un proverbe congolais. Et ce proverbe, attention, magnifique proverbe. Je crois que c'est l'un des plus beaux que je vais vous citer. Dit ceci. Même si le gnou mange l'herbe, elle continue de pousser.